Et bonjour, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le lundi 30 juin, il est 9h et tout de suite, c'est Sandrine Donzel qui est avec nous.
Votre radio, vos émotions.
UG Radio.
9h, 11h. Entre nous, Sandrine Donzel sur UG Radio. Et bonjour Sandrine, comment ça va ?
Mais ça va très bien, ouais. Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Bonjour. Alors aujourd'hui, quelles sont les questions du jour qui reviennent,
Alors déjà, par rapport à l'émission, je vais juste revenir un tout petit peu sur une question qui a été posée la dernière fois par rapport au couple.
Voilà.
Parce que on a beaucoup parlé du désir, mais il y a une question à laquelle je n'avais pas répondu, qui avait été posée par Marianne, si mes souvenirs sont bons. Et puis par mail, j'ai eu à peu près la même question. Donc je pense que ça vous
pourra y répondre.
Voilà, dans un premier temps. Et après, on va aborder le thème donc que vous avez choisi, vous qui nous écoutez derrière vos ordinateurs, ou vos téléphones d'ailleurs, donc qui est les jalousies et les rivalités dans la fratrie. Donc c'est encore un thème assez vaste. J'ai déjà plusieurs questions que j'ai reçues par mail ou par messagerie. Donc on va déjà répondre à celle-là et puis au fur et à mesure, comme d'habitude...
On en viendra au reste.
Voilà, on invite les gens aussi à nous poser des questions.
Vous pouvez nous appeler au 04 57 29 04 18. Et en plus, tu aurais même pu le donner toi, parce que maintenant, tu as le numéro en face.
Olivier me l'a affiché juste là, en gros. Vous pouvez aussi poser vos questions via Facebook, soit directement sur la page de l'émission, parce que maintenant, l'émission a une page. Donc, facebook.com/entre-nous-buget-radio. Tout attaché. Voilà. Et si vous voulez être anonyme, vous pouvez même sur Facebook envoyer un message privé à la page. Comme ça, personne ne sait qui vous êtes.
Et comme ça, tu peux y répondre quand même.
Exactement. Bon.
Allez, on commence.
Avec les questions, la question à laquelle je voulais répondre sur le couple.
D'accord. C'est parti.
Si ça te paraît bien, hein ?
Ben oui. C'est très intéressant, le couple.
Cette question-là, parce que la dernière fois, on avait parlé du désir et tout ça. Il y avait donc la question de Marianne qui était, si je mes souvenirs sont bons, comment dire quelque chose à mon conjoint sans qu'il le prenne comme un reproche.
Oui.
Et j'ai eu par mail une question. Alors, une personne qui m'a posé plusieurs questions, dont la première portait sur le couple et les enfants. Et elle disait, et je pense que ça rejoint un peu la question de Marianne, « Nous avons une façon différente d'éduquer nos enfants. » Ce qui ne me gêne pas tant que ça, puisque nous sommes deux personnes distinctes, me dit, donc c'est Magali qui me dit ça. Mais parfois, je ne peux m'empêcher d'intervenir quand je trouve qu'il y a injustice. Donc, je précise pas la situation parce que c'est pas forcément important. Elle dit c'est plus fort que moi, je me dis que c'est pas bien, et en même temps, c'est plus fort que moi. Ça met en run mon conjoint, et ça crée des tensions, et ça fait aussi monter la tension sur mon fils. Enfin, bon, bref.
Bah, automatiquement, ça fait beaucoup
de
choses.
Oui, c'est ça. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, les désaccords, et notamment les désaccords sur l'éducation des enfants, et c'est un sujet dont on a peu parlé la dernière fois, et c'est dommage, mais qui est important. Parce que c'est quelque chose qui arrive très souvent. Il y a souvent un parent qui est plus cool que l'autre, un parent qui est plus strict que l'autre. Et même si on est d'accord sur le principe, dans les faits, on ne fait pas forcément de la même façon. Donc, tout le problème est que si on essaye un peu trop de dire à l'autre qu'il s'y prend de la mauvaise façon, l'autre le prend comme un reproche. Et il a raison, puisque c'en est un.
C'est pas faux, c'est un reproche, c'est vrai quand même.
Bah oui, voilà. Quelque part, même si on essaye de le formuler gentiment.
Oui, mais ça reste un reproche.
Ça reste un reproche.
C'est une vilaine pensée.
Bah, une vilaine pensée, non, parce que ça part d'une bonne intention.
Finalement, quand même, parce que c'est quand même pour le bien de l'enfant.
Pour le bien de l'enfant, ou parce qu'on se dit que peut-être ça serait plus efficace ou mieux si la personne faisait différemment. Le truc, c'est que l'autre aussi pense la même chose.
Mais des fois, ça peut être soit pour le bien de l'enfant, ou soit par simple jalousie, peut-être aussi.
Ouais, ça peut arriver.
Ça peut arriver, mais c'est moins fréquent.
Ce que je vois, c'est que c'est quand même pas la majorité des cas. Ce que dit Magali dans son message, c'est quand elle essaye de remettre en cause le fonctionnement de son mari et lui dire que peut-être il pourrait être plus gentil avec les enfants ou gérer ça différemment, ce que lui répond son mari, il dit... Enfin, elle dit, il sort souvent la phrase qui tue et qui coupe court à tout. De toute façon, tu sais tout mieux faire que moi et rien de ce que je fais ne te plaît. Donc, ce qui est très désagréable à entendre.
Ce qui ressort souvent, c'est vrai.
Oui, mais en même temps, sans vouloir le défendre, je pense que cette phrase signifie que lui, il ressent, probablement, mais c'est encore une fois, c'est à lui qu'il faudrait poser la question, que lui, il a l'impression que effectivement, sa femme est un peu l'experte, se positionne en experte.
Qui sait tout faire, voilà.
Voilà, et qu'elle essaye de lui donner des conseils sur comment s'y prendre. Ce qui n'est pas facile à entendre, parce qu'on aime bien pouvoir un peu faire les choses à notre façon.
Oui.
Les hommes sont pareils aussi, et puis les femmes sont pareilles aussi, voilà, c'est la même chose.
Ça, hein, c'est pareil pour tout le monde. Bah, oui, oui. Je sens, Olivier, que tu veux qu'on fasse une émission sur les stéréotypes.
Il faudra, parce que j'arrête pas depuis ce matin, quand même.
C'est ça. Donc, il faut que je vous dise, vous qui nous écoutez, ce matin, Olivier m'a dit qu'il faisait le ménage comme un homme. Voilà. Donc il y aura une façon masculine et une façon féminine de faire le ménage.
Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est ancré dans ma tête. Ça, c'est bizarre, hein, c'est vraiment étrange. Mais j'ai dit comme un homme. On va dire comme moi. J'ai dit quelque chose comme ça, il me semble, après.
Ouais, t'as rectifié.
Voilà.
Bon, bref, j'en reviens à la question de Magali et de Marianne, du coup. Toute la difficulté est que si l'autre a l'impression qu'on lui renvoie que effectivement il fait pas comme il faut, il ou elle d'ailleurs, parce que ça peut être à l'inverse,
ouais, bah,
il ou elle ne fait pas comme il faut, il va effectivement vivre chaque reproche, chaque commentaire comme étant encore une nouvelle remise en cause qui est difficile à vivre.
Ouais.
Donc, ce qui est intéressant de se dire, c'est que si lui, il fait comme ça, par exemple, Magali dit qu'il est parfois violent avec son fils, mais violent pas physiquement, hein, qu'il est peut-être maladroit, en tout cas. Par exemple, il dit à notre fils de 4 ans et demi qu'il ment tout le temps parce qu'il a dit qu'il ne réclamerait pas une seconde histoire. Mm-hmm. Donc, lui, il a de bonnes raisons de faire ça. Ça vous paraît peut-être bizarre de dire ça, mais lui, dans sa...
Pour lui, c'est normal.
Voilà,
c'est
dans,
ça que ça se passe.
Dans sa vision des choses... C'est la bonne façon pour faire comprendre à son enfant qu'il ne doit pas réclamer une deuxième histoire.
Exactement.
Donc, il est parfois plus adroit, soit de laisser les choses se faire spontanément parce que le papa, du coup, dans cette situation, va peut-être, si on le laisse libre en disant bah, « finalement, c'est peut-être ta façon de gérer tout ça, il n'y a pas de problème », se rendre compte que ce n'est pas super efficace et essayer de faire autre chose. Et alors, il va copier un peu sur sa femme, mais sans lui dire. Parce que c'est plus facile de copier... si on pense que l'autre ne va pas dire « Ah bah tu vois, je t'avais dit que ça marchait mieux comme ça. »
C'est plus facile dans ce sens-là.
Tu vois que... oui. Si l'autre dit « Non, mais tu fais comme tu veux, vraiment,
ben ouais,
voilà.
»
Après, on peut aussi aider son conjoint en disant « Bah tiens, dans telle situation, qu'est-ce que t'essayes de faire ? Donc tu fais comme ça, bon, visiblement, ça marche pas super bien. Est-ce que peut-être on pourrait trouver une autre solution ? » Parce que si le conjoint a l'impression que nous, on sait, que lui ne sait pas, il se sent un peu rabaissé,
ben ouais.
Et c'est ce qui peut faire qu'il réagit mal.
C'est ça. Et c'est exactement ça. Et j'ai l'impression que ça va se passer comme ça dans mon couple aussi. Tu vois.
Donc voilà, je sais pas Magali et Marianne si ça répond à votre question. Ça me paraissait important de revenir là-dessus. Il me paraît important aussi de laisser les gens vivre un petit peu les conséquences de leur façon d'être en relation. C'est-à-dire que si une personne est un peu plus stricte et que du coup il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de difficultés et que au bout d'un moment, il est probable que cette personne va se rendre compte que
il y a un truc.
Il faudrait peut-être faire autrement.
Bah oui.
Et inversement, quelqu'un qui est plus cool, mais qui se laisse un peu manger d'une certaine manière, va peut-être se rendre compte que parfois, il ou elle a besoin d'être un peu plus strict. Tu vois.
Oui, mais c'est hyper psychologique finalement parce que en fait, dans l'histoire, si la personne plus stricte, on va dire, entre les deux, il y a la personne plus laxiste et puis la personne
c'est
plus
ça.
Stricte. Le problème, c'est que après, la personne peut s'imaginer plein de choses. C'est-à-dire se dire, le jour où elle se rend compte vraiment des faits, elle peut se dire, mais finalement, s'il faut, moi, j'étais méchant, mais s'il faut, elle est méchante aussi. Enfin,
oui,
tu vois ce que
ça.
Je veux dire? Ça peut être,
ça
ou
rassure.
Alors, inversement, il peut se dire, elle aurait pu me prévenir quand même. S'il faut, je lui ai fait du mal pendant des années à lui parler mal ou quoi, ou à être trop stricte avec lui ou elle.
D'où l'intérêt de pas... C'est pas qu'il ne faut pas dire.
Non,
c'est
il faut
juste...
parler un peu,
voilà.
Mais voilà.
On essaye de dire, de faire passer son message. Si ça ne fonctionne pas, ça
sans
peut être...
Sans vexer, quoi.
Voilà, si on a essayé de faire comprendre à l'autre et que ça n'a pas marché, peut-être vaut-il mieux un petit peu...
Se mettre en recul, en retrait.
Se mettre un peu en retrait et dire, mais finalement, tu peux faire les choses comme tu veux. Et puis, on en reparle si tu as envie, quoi.
C'est une très bonne solution. Merci. Sandrine, moi j'ai appris quelque chose, tu vois.
Bon voilà, donc si vous nous écoutez, Magali et Marianne, si ça répond à votre question, faites-nous un petit coucou en nous disant ouais c'est bon, ou si vous avez une question complémentaire. Voilà,
ça nous aide aussi. Allez, on passe à la suite.
Oui.
Votre radio, vos émotions.
UGR Radio.
Et la suite. Alors, on continue avec quoi, exactement ?
Eh ben, on va aller sur les jalousies et rivalités dans la fratrie, puisque c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui.
Eh ben voilà, alors c'est reparti pour une nouvelle émission avec les jalousies, rivalités entre frères.
Oui, frères et sœurs.
Et sœurs. Tu vois ? Eh non, franchement, il va vraiment falloir la faire, cette émission stéréotype.
Ça peut... Alors...
Stéréotype, moi j'entends par là radio. Tu sais, on est passé à la stéréo dans les années 80.
Oui, c'est ça. Ah là là.
Non, mais je dis n'importe quoi quand même.
Alors, il y a des choses qu'on va peut-être voir aussi dans l'émission qui peuvent s'appliquer aux conflits entre enfants, oui. Pas forcément frères et sœurs, mais entre enfants. Mais ça, on en reparlera au fur et à mesure. Okay.
D'accord, eh bien c'est parti.
La première chose que je voulais dire par rapport au thème, c'est quand même que les jalousies et les rivalités, alors notamment dans la fratrie entre frères et sœurs, c'est quand même un sujet extrêmement compliqué. Parce que ça met en jeu la façon dont les enfants sont en relation avec eux-mêmes. C'est-à-dire chaque enfant avec lui-même, la façon dont il gère ses émotions, ses compétences relationnelles, qui dépendent des âges et tout ça. Donc ça, c'est une première difficulté. La deuxième chose que ça met en jeu, c'est la façon dont les enfants sont en relation entre eux. C'est-à-dire, est-ce qu'ils savent gérer un conflit avec quelqu'un d'autre? Comment ils sont en communication les uns avec les autres? Donc ça, c'est... Et puis, parfois, on y reviendra, mais parfois, ils n'ont pas forcément d'affinité. C'est pas parce qu'ils sont frères et sœurs qu'ils s'entendent.
Ils ne sont pas obligés de s'entendre non plus.
C'est ça. Mais ça, c'est super important.
Chaque individu est individu, justement.
Ça, c'est super important. J'y reviendrai tout de suite après. Donc, il y a la façon dont ils sont en relation avec eux-mêmes, la façon dont ils sont en relation entre eux, entre enfants. Il y a la façon dont chaque enfant est en relation avec ses parents, c'est-à-dire comment il vit, la façon dont ses parents le traitent, est-ce qu'il se sent en confiance, soutenu, respecté ou pas, enfin voilà. Et il y a un autre paramètre hyper important, c'est la façon dont chaque enfant voit la relation que les autres enfants ont avec les parents.
D'accord, c'est la façon de percevoir quelque chose qui...
Oui, parce que... Est-ce que tu as des frères et sœurs?
Oui, un grand frère et une grande sœur.
Donc, toi, tu vivais la relation avec tes parents, mais quelle image avais-tu de la relation que tes parents avaient avec ton frère et ta sœur?
Eh bien, justement, et oui, ça m'a toujours fait bizarre. En fait, je me suis toujours dit, tiens, c'est bizarre, parce qu'en fait, moi, je dis papa, maman, et eux aussi, ils disent papa, maman, c'est rigolo, ça. Enfin, quand j'étais petit, je pensais à ça. C'est bizarre. Bon, j'étais tordu aussi, quand j'étais petit, moi, mais...
Toujours maintenant.
Oui, je sais, mais bon, j'ai pas changé ça en même temps. Voilà, on change pas le caractère comme ça.
Donc, si tu veux, par exemple, certains enfants peuvent percevoir des attentions qu'on porte à un autre enfant comme étant injuste, inégale.
Oui, un petit peu.
Ça, c'est logique, mais c'est pareil, on y reviendra un petit peu après. OK ? Donc, c'est pour ça que c'est hyper complexe, parce que ça met en jeu plein de choses sur lesquelles, enfin, qu'on maîtrise pas et qu'on connaît pas forcément très bien.
C'est difficile à maîtriser, c'est clair.
Exactement. Donc, ce que je te propose...
Oui.
Si tu veux bien. Je vais juste revenir, avant de répondre à la question de Anne, qui m'a été posée par mail, je voulais juste revenir sur ce que tu as dit, c'est-à-dire on n'est pas obligé de s'aimer. Je pense que la première chose qu'il faut poser avec les relations dans la fratrie, c'est le fait que les enfants vivent ensemble et sont amenés à partager non seulement leur espace vital, mais voilà, leurs jouets et leurs parents, qui sont très importants pour eux, avec une autre personne qu'ils n'ont pas choisie. Alors, comme on a parlé du couple la dernière fois, c'est déjà compliqué de vivre avec quelqu'un qu'on a choisi.
Je comprends, oui.
Donc, si tu veux vivre avec quelqu'un qu'on n'a pas choisi, c'est pas simple.
Bah oui, parce que c'est comme si c'était un ami, tout ça. Enfin, une personne qu'on rencontre dans la rue, et finalement, voilà, c'est pas un ami, justement.
C'est pas un ami, on le choisit généralement.
Généralement, je veux dire.
C'est imposé, d'une certaine manière. Et alors, en plus, on n'a pas choisi de naître premier, deuxième, troisième.
Exactement. J'ai trouvé ça très nul d'être troisième, par contre.
Ben oui.
Oui, parce que tout le monde dit tout le temps qu'on est gâté. Et puis en fait, c'est vrai, c'est vrai. Non, j'avoue, c'est vrai.
Tu vois ?
Mais oui.
Ça, c'est l'injustice de base du fait d'être né dans une fratrie.
Ben oui.
Donc, c'est important aussi, du coup, de reconnaître ça aux enfants. Des fois, ils s'en plaignent qu'ils voudraient que leurs frères et sœurs soient pas là, que ça les embête et tout ça, qu'ils les aiment pas, ils disent-ils.
Et un jour, en fait, ils ont la nostalgie qui revient.
C'est ça. Mais en réalité, quand les enfants disent qu'ils aiment pas leurs frères et sœurs, c'est pas vraiment ça qu'ils disent.
C'est qu'ils les supportent difficilement.
Par moment, ça les embête. Tout le temps, en général. Et que parfois, ils manifestent aussi par là qu'ils auraient peut-être besoin de quelque chose, eux, individuellement. Mais ça aussi, j'y reviendrai un petit peu après. En répondant à la question
de Anne, justement. Ça, c'est plus de la jalousie, alors, peut-être.
Oui,
ça en fait partie.
Oui, alors c'est de la jalousie, mais après, ça dépend ce qu'on met derrière aussi.
D'accord.
C'est, en fait, les frères et sœurs, c'est ce que j'appelle l'ambivalence des sentiments. C'est-à-dire, à la fois, mais moi, j'ai pas de frères et sœurs, donc.
D'accord, bon. Alors, voilà.
Mais à la fois.
Moi, je peux te répondre.
Oui, mais c'est ça. Mais tu vas me dire si c'est juste ou pas. Et vous, derrière votre ordinateur,
voilà,
qui
vous pouvez
écoutez,
nous répondre aussi,
vous pouvez nous mettre des petits commentaires sur la page de la radio. C'est l'ambivalence des sentiments. C'est-à-dire, à la fois, on s'aime très fort, et à la fois, par moment, on se déteste à mort.
Il y a des gros clashs, des fois, mais c'est vrai. C'est ça, en fait.
Donc, c'est, voilà.
Et pourtant, on revient toujours, c'est ça.
Mais oui,
c'est
parce qu'on s'aime.
C'est pas de l'amitié du tout, c'est vraiment...
Il y a un truc.
C'est de l'amour.
L'amour.
Ah, c'est bizarre, hein.
C'est de l'amour.
Si tu veux que je te dise.
C'est de l'amour, ça.
Alors,
s'explique pas.
Alors, est-ce que c'est pas le fait, justement, qu'on vive ensemble pendant des années, qu'au bout d'un moment, ça devienne vraiment de l'amour
Bah, ça, je ne sais pas comment...
Parce que dans un couple, c'est pareil. Pour moi, c'est difficile de comprendre pour l'instant. J'espère que ça le restera. Non, mais oui, t'as compris pourquoi, voilà.
Oui.
Je précise. C'est difficile de comprendre quand même qu'on puisse vraiment se séparer au bout de plusieurs années, on va dire. Je dis par exemple un exemple, 20 ans, voilà. Mm. Au bout de 20 ans de vie commune, on se sépare complètement, ça va plus du tout. Le problème, c'est qu'il y a toujours, je pense, un petit truc, une sorte de petite flamme à l'intérieur de chaque personne, chaque individu, qui fait qu'on est tout de même quand même attaché, quoi.
Mais oui, alors c'est la question, c'est la question de l'amour, c'est-à-dire
ouais.
qu'on ne sait pas qu'est-ce pour qui fait qu'on aime. Voilà,
oui,
pour on en a parlé la semaine dernière,
c'est
tu
ça.
Te souviens
Non, la
fois là, le mois dernier, pardon.
C'est rigolo.
J'ai très envie de faire une émission hebdomadaire, je crois.
Ouais.
Donc on en a parlé le mois dernier. Mais les frères et sœurs, c'est pareil, ils ne savent pas pourquoi ils s'aiment.
Oui, c'est, mais
voilà.
C'est la même chose.
Donc,
oui.
Mais alors, certains s'aiment vraiment, et puis d'autres, se supportent, mais
ouais.
ne s'aiment pas forcément. Donc, voilà, ils ne sont pas obligés de s'aimer.
Mm-hmm.
Ça, je pense que c'est important quand même.
D'accord.
Ok. J'ai une petite question pour toi, Olivier. Est-ce qu'on met un petit peu de musique
maintenant ? Eh bien, on met un petit peu de musique.
Et après, je réponds à la question de Anne à propos de ses deux filles.
Oui, eh bien, il n'y a pas de problème. On écoute tout de suite Eros Ramazzotti, l'amour,
oh,
bien
beau.
Sûr. Più bella cosa. Il est 9h17, restez bien avec nous, je vous rappelle le numéro de téléphone pour contacter Sandrine, pour qu'elle réponde à vos questions en direct à l'antenne, 04 57 29 04 18, vous l'avez sur le site internet aussi, et vous avez désormais un chat sur le site, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, un chat qui vous permet de répondre, de chatter, de débattre de nos questions et de nos sujets du jour. Merci Sandrine, à tout de suite, c'est Eros Ramazzotti qu'on écoute sur Buget Radio.
Buget Radio. Info, musique, culture. Tous les jours en direct, Buget Radio.
Eros Ramazzotti, più bella cosa sur Buget Radio. Il est 9h, ben j'allais dire sur Buget Radio.
C'est ça.
9h22.
Bon.
Et on reprend l'émission, allez.
Eh oui.
Alors,
je vais vous lire en fait le message que m'a envoyé Anne. Donc elle dit, voilà ce qui me pose problème. L'aînée exprime souvent le fait qu'elle est contente d'avoir un petit frère, mais elle voudrait que sa petite sœur n'existe pas.
Mm-hmm.
D'accord. Ses filles ont 6 et 3 ans. Elle me dit, je trouve normal qu'elle pense ça, mais ça me dérange qu'elle l'exprime souvent et devant sa petite sœur, car ça lui fait de la peine. Se sentant rejetée, la petite sœur a alors une réaction violente, elle tape la grande et lui tire les cheveux.
D'accord.
Bon, ça n'existait pas avant l'annonce de l'arrivée du petit frère. Bon, ça c'est pas forcément significatif, mais on verra après. Alors, je vous lis la suite, c'est un petit peu long, mais c'est intéressant. L'aînée, alors un exemple de situation. L'aînée joue seule au Playmobil depuis une heure. Elle a installé ses personnages dans ses maisons, elle a inventé tout un scénario, et la petite sœur fait autre chose à ce moment-là, elle est dans son bain. Et quand elle sort du bain, la petite sœur, elle vient dans la chambre qu'elle partage, elle voit les Playmobil qui courent une partie du plancher. Mmh. Et donc, l'aînée crie « Maman, ma petite sœur m'embête !»
D'accord.
Elle appelle au secours, déjà. Donc, la maman vient voir, et puis oui, elle marche sur mes Playmobil, elle m'embête. Donc, elle voit effectivement la petite sœur qui est au milieu des personnages.
Ouais.
Et la grande dit à sa petite sœur « Mais c'est mes Playmobil et je veux pas que tu y touches. » Ok. Donc, la maman essaye de reformuler en disant « Bah oui, toi, t'aimerais... » Elle dit à la petite « T'aimerais bien jouer au Playmobil avec ta grande sœur, mais pour le moment, elle a pas du tout envie. » elle veut pas jouer avec toi. Donc, la petite, elle dit non, je veux jouer avec Lélie. Et la grande sœur répond non, c'est à moi, je les garde.
Mm-hmm.
La petite dit je veux le canapé et un personnage dessus. La grande dit non, je joue avec. Donc, ça monte en escalade.
Ouais, complètement, hein. Ouais.
Voilà, et donc la maman dit j'exprime le fait que l'aînée pourra prêter des Playmobil quand elle aura envie de jouer, quand elle aura envie de le faire, quand elle aura fini de jouer avec. Et l'aînée dit « Non, je veux pas les prêter à ma sœur. » La plus jeune finit par taper sa grande sœur.
Mmh.
Et puis donc, la grande dit « Maman, ma petite sœur me tape, elle me fait mal. » Mais elle ne riposte pas et elle ne se défend même pas. Du coup, la maman enlève la petite sœur gentiment et lui rappelle qu'on se tape pas entre enfants.
Mmh.
Et elle lui propose d'exprimer sa colère d'une autre façon. Mais la petite sœur, elle veut pas. Elle refuse. Elle cherche à se dégager pour retourner taper sa sœur.
D'accord.
Donc, tu vois le tableau.
Ouais, ça, c'est assez compliqué quand même.
Oui, mais c'est assez courant. Enfin, je suppose que les parents qui nous écoutent ont certainement vécu ça.
Donc, t'es en train de me dire qu'il faut pas du tout que j'ai deux enfants. Ni 3, ni 4, ni 5.
Je te propose d'en faire 6, 7, 8, parce qu'après, les grands s'occupent des petits, ça fait moins de travail.
Ah, alors, non, je rigole. 7, 8 d'un coup, peut-être. Alors. Ah, mais non, pas d'un coup.
Non, coup, c'est compliqué.
Bon, je vais en faire un maintenant, j'attendrai 10 ans.
Donc, moi, cette situation, elle m'évoque plein de choses.
Oui.
Déjà, la première chose, c'est que je ne suis pas sûre que la petite ait envie de jouer au Playmobil.
Ah, d'accord.
À ton avis, pourquoi est-ce que je dis ça?
Je sais pas. J'ai pas compris, c'est pour ça que je te dis ah, d'accord. Et alors, on va attendre.
Non, mais parce que, en fait, là, du coup, la maman formule « Ah, mais t'aurais envie de jouer au Playmobil ». Moi, je me demande si cette petite sœur n'aurait pas plutôt envie de jouer avec sa sœur, sa grande sœur.
D'accord, c'est plutôt ça, en fait.
Tu vois?
C'est l'excuse, c'est le... Ben, ah oui, les Playmobil, d'accord, oui, je viens de comprendre un
instant. Tu vois, la petite rentre dans la chambre, ouais, elle voit ça. Tous les Playmobil. Bah, peut-être que les Playmobil lui font envie, hein, j'ai pas dit le contraire. Mais du coup, comme la maman formule, ah, bah, tu voudrais jouer au Playmobil, ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants sont très coopératifs avec nous.
Oui.
Donc, si leurs parents, surtout que là, la petite, elle a 3 ans, si un parent dit, ah, bah, apparemment, t'as envie de jouer au Playmobil, l'enfant, même si c'est pas tout à fait ça, il a pas forcément suffisamment de recul pour dire non, mais c'est pas que je veux jouer au Playmobil, c'est que je veux jouer avec ma sœur.
C'est vrai que si le gamin il commence à dire ça, c'est un peu la
truc. Donc il va se focaliser sur les Playmobil. Ah oui, ça doit être ça, donc ok, j'ai envie de jouer. Oui, d'accord. J'ai envie de jouer au Playmobil. Alors que peut-être on.
Ça permet d'avoir un point au moins où on lui donne raison et puis voilà.
Ben, ça vaudrait le coup de le formuler comme ça pour voir si son envie à cette petite c'est juste de jouer au Playmobil ou si c'est de jouer avec sa sœur.
Certainement, ça t'a bien raison.
Donc Anne, je vous invite à essayer déjà pour voir ça. Alors ça ne s'arrête pas là parce qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut faire dans cette situation. Ça peut changer aussi pour la grande parce que peut-être que la grande s'imagine que sa sœur veut juste la déranger pour lui piquer ses Playmobil et que si elle prend conscience qu'en fait sa sœur voudrait jouer avec elle, c'est différent.
D'accord, c'est un peu moins compliqué pour l'histoire du coup.
Mais oui.
Parce que ça rentre dans le cadre de d'une pseudo-amitié, on va dire.
C'est ça. C'est exactement ça. Ouais. T'as tout compris, Olivier. Parce qu'en fait, si tu vois, la grande, elle s'est inventée toute une histoire, elle a construit tout un monde. Si sa petite sœur veut jouer avec les Playmobil, ça veut dire que ça va retirer de l'intérêt à son jeu à elle.
Automatiquement.
Tu vois, parce qu'elle va prendre des choses pour les enlever. Alors que si sa petite sœur veut jouer avec elle. Ça peut enrichir son jeu.
Oui.
Peut-être que même la petite sœur pourra ramener d'autres Playmobil qu'elle a elle et tout et ils pourront améliorer l'histoire, tu vois. Donc, peut-être que ça vaut le coup de tenter ça.
Une participation, en fait, entre sœurs. Voilà.
C'est ça. Alors, pas imposer, mais de dire, ah, ben, je crois que toi, tu aimerais bien jouer avec ta sœur, tu vois.
Oui, tout simplement, demander.
C'est ça.
Alors, au lieu d'imposer.
Exactement. Mais alors, ça rejoint aussi... alors, c'est une autre question... qui m'a été posée par Magali, qui me dit comment gérer les conflits dans la fratrie avec des différences d'âge. Non, alors, les conflits dans la fratrie, j'y reviendrai après. Je vais continuer sur la question de Anne. Donc, la question de Anne pose une deuxième interrogation pour moi, parce que, justement, pour résoudre les conflits dans la fratrie, c'est quand même compliqué. C'est de savoir, est-ce que ces enfants savent gérer leurs conflits seuls?
D'accord. Et ça, comment ça se passe?
Alors... C'est intéressant au début de les aider, quand ils sont petits, à effectivement comprendre comment est-ce qu'on gère un conflit de façon constructive.
D'accord.
Est-ce que tu sais comment on s'y prend, Olivier ?
Ben non, pas trop, en fait. C'est ça le problème. C'est que j'attends toujours, là, depuis tout à l'heure, la suite. Je me dis à chaque fois, j'attends une petite suite pour avoir l'info, tu vois. Ça va m'aider, au moins.
À ton avis, comment est-ce qu'on s'y prend pour gérer un conflit de façon constructive ?
Je sais pas. Pour moi, c'est de façon constructive. Alors oui, je vais aller dans le sens, dans ton sens, puisque c'est vrai que c'est souvent comme ça que ça marche. Non, mais je dis pas de bêtises, c'est vrai. Écoutez-la bien, Sandrine, parce qu'elle est, elle a souvent de très bonnes techniques. Alors, si vous venez dans l'émission comme ça, vous le savez pas, ben voilà, je vous donne l'info. Moi, je pense qu'en fait, c'est quand il y a un conflit, tout dépend le conflit après, parce que c'est vrai qu'on veut pas régler tous les conflits de la même manière.
Je suis d'accord avec ça. Oui.
Mais je pense qu'il faut y aller par la manière justement de comment on explique ça. Le questionnement, en fait, poser des questions, savoir qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir à toi. Par exemple, pour les deux filles, là, de, je sais plus le prénom. Anne. Voilà, Dan. Ben, elle pourrait poser la question à la plus petite, lui dire « T'aimerais bien jouer avec ta grande sœur ?» Bon, oui, d'accord. Et puis, elle demande à la grande sœur « Et toi, ça te ferait plaisir de jouer avec ta petite sœur ?» Et puis, voilà. Et peut-être que là, ça pourrait déjà arranger, parce que peut-être que les deux vont avoir un petit peu de pitié, en gros. Quoi,
tu ouais.
Vois alors... Moi, je l'espère comme ça, tu vois. Mais je pense que c'est mieux comme ça, plutôt que d'engueuler ou de dire « Ben, toi, tu vois, ou d'imposer à la grande de jouer avec la petite, si elle a pas du tout envie, par exemple. »
C'est ça. Alors, le problème d'imposer, c'est que si la grande a pas du tout envie, enfin, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Je reviendrai sur deux, trois détails de comment on peut aider les enfants à gérer des conflits. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi déjà sur le fait d'imposer. Mm-hmm. C'est-à-dire que si je t'impose de force de jouer avec moi et que t'as pas du tout envie, tu vois, si je t'imposais de force d'animer cette émission avec moi alors que t'aurais pas du tout envie.
Ben, elle sera nulle. Elle marchera pas.
Voilà. Et puis, toi, tu vas pas y prendre de plaisir et probablement que tu vas en vouloir à la personne qui t'a imposé de le faire. Tu
c'est
vois
ça, c'est ça.
Et tu vas trouver, là en l'occurrence entre enfants, l'enfant à qui on impose de jouer avec son frère ou sa sœur va probablement en vouloir à ses parents de lui imposer ça. Mais comme les enfants n'aiment pas dénigrer leurs parents, généralement, ils le manifestent pas envers les parents, ils le manifestent envers l'autre enfant. Et ils vont en vouloir à l'autre enfant de les forcer. Parce qu'ils vont dire, c'est ça, si j'avais pas de frère ou de sœur, finalement, on me forcerait pas à jouer avec.
Et en gros, ça peut venir à des drames. Non,
mais
je suis
oui.
en train de penser à des trucs terribles. Non, non, mais tu t'imagines, oui, c'est ça.
Oui,
en fait. C'est terrible.
Mais ça arrive assez souvent.
Oh, malheureusement.
Donc, c'est important, du coup, de se demander effectivement comment on gère les conflits entre enfants. Ouais. Parce que ça, c'est un truc hyper important. Donc, ce que tu as dit, c'est tout à fait juste. Mais ce que fait cette maman, hein, d'ailleurs, hein, elle pose au départ, en fait, elle exprime à chaque enfant le besoin de l'autre.
Oui, elle mais elle ne l'a pas fait spécialement pour la grande sœur, apparemment, non.
Alors, si, parce qu'elle dit... alors, attends, je vais retrouver
oui,
le...
excuse-moi, parce que je te reprends dedans.
Elle dit... Qu'est-ce qu'elle dit? Écoute, je ne retrouve plus. Mais si elle le formule quand même pas mal en disant, ben voilà, ta grande sœur, pour le moment, elle a envie de jouer au Playmobil toute seule.
Ouais, mais elle dit ce qu'elle, elle pense.
Oui.
Alors que s'il faut, la fille, elle ne pense pas vraiment ça. Elle se dit, bon, peut-être si on y va à la cool, peut-être que je veux bien jouer avec la petite. Ben, tu vois ce que je veux dire?
C'est possible. Moi,
c'est pour ça que je sais
pas. Je pense que c'est tout à fait possible. Ouais. Donc, l'idée de la démarche de résolution de conflit, c'est de faire entendre au premier enfant, enfin, à un des enfants, que, ah tiens, toi, t'as envie de faire ça. Tiens, t'aurais envie de jouer avec ce jeu. Ouais. Ou tiens, t'as vu ton frère qui jouait avec ce jeu et ça t'a fait envie. Mm-hmm. D'accord. Et à l'autre enfant de dire, ah bah, toi, t'étais en train de jouer, t'étais bien tranquille et. Ça t'a un peu embêté que ton frère ou ta sœur vienne te prendre ça. Après, c'est de reconnaître la difficulté de la situation. Ah oui, deux enfants qui veulent se partager le même jeu, c'est compliqué.
Ben oui.
Tu vois ?
Oui, mais c'est vrai.
Pour qu'ils se disent, bon, oui, il va falloir qu'on réfléchisse un petit peu, tu vois, ça va pas se régler comme ça, tchouk.
Ben oui.
Et après, quand ils sont petits, on les guide vers la résolution. C'est-à-dire, tiens, comment est-ce qu'on pourrait faire ? Tiens, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? On pourrait faire quoi ? Et plus ils sont petits, plus on propose des choses. Par exemple, tiens, ben, peut-être que tu peux lui proposer un autre jouet en échange et qu'il va te laisser celui-là. Tiens, peut-être que vous pouvez jouer tous les deux ensemble avec ce jouet. Tiens, peut-être que tu peux attendre un petit peu et quand il aura envie, il va te le prêter. Ou quand il n'en aura plus besoin, il va te le prêter. Et on constate que ça marche relativement bien. Donc,
d'accord.
Ça, c'est la première phase. Mais dans la situation que décrit Anne, je pense qu'elle a fait ça déjà. C'est un peu la démarche
c'est
qu'elle décrit.
C'est un petit
décrit.
Peu sa démarche, voilà. D'accord.
Et c'est peut-être coincé parce que ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'elle intervient presque systématiquement quand ça se passe ?
Ben oui, ça, on ne sait pas.
On ne sait pas. D'où l'intérêt, pour vous qui nous écoutez, d'où l'intérêt de nous téléphoner, vous voyez ?
Voilà, de nous donner vos infos par téléphone ou tout simplement nous l'envoyer sur le chat et on va regarder, on va contrôler
exactement,
le chat.
Exactement, on va contrôler le chat.
Je
ne
sais pas si tu y
as
accès, toi.
J'y suis.
Eh ben voilà.
Mais il n'y a rien. Regarder.
Il n'y a rien. Bon, ben voilà. Sur le chat, il n'y a personne.
Mais je continue avec ça parce que si on intervient beaucoup, chaque fois qu'il y a une dispute, généralement parce qu'on a peur que ça dégénère et qu'ils se tapent dessus, les enfants finissent par croire qu'ils ne sont pas capables de gérer leur conflit tout seuls.
Ouais.
Ils finissent par le croire vraiment, c'est-à-dire... et donc, ils vont un peu monter dans les tours pour nous faire intervenir.
Oui, pour qu'ils... En fait, en gros, ils espèrent qu'il y ait quelque chose qui se déclenche et puis
bah,
du coup, ils vont aller au maximum
c'est
de...
ça.
De leurs possibilités, souvent.
Oui, mais du coup, ça va monter. Ouais, c'est ça, ça crie fort. Et c'est ça qui est pénible aussi pour les parents, parce que du coup, c'est sans arrêt, ça monte dans les cris, dans les tours.
Au bout d'un moment, ça inquiète un peu quand même. On se demande si vraiment on fait les choses assez bien ou pas. Et puis,
c'est
voilà.
ça. Alors moi, je...
Voilà pourquoi prendre contact aussi.
C'est ça. Moi, je n'invite pas les gens à laisser les enfants se taper dessus, forcément. Je dis juste qu'il est important de passer par une phase d'observation.
Ouais.
C'est-à-dire de se dire comment est-ce que mes enfants gèrent ces situations quand ils sont laissés en autonomie et que je n'interviens pas du tout. Je vais te raconter une anecdote assez rigolote. Peut-être que si elle nous écoute, elle se reconnaîtra. C'est une maman qui avait fait des ateliers avec moi et elle avait deux garçons de 5 et 2 ans, je crois, à l'époque, ou 4 et 2, je ne sais plus, et qui se disputaient beaucoup, mais vraiment beaucoup. Et donc, elle intervenait systématiquement parce qu'elle avait peur qu'ils se fassent mal et tout ça, ce qui est compréhensible, hein, ce qui est logique. Ben ouais. Surtout qu'elle disait, des fois, ça, c'est assez violent. Bon. Et puis, elle me dit, mais là, j'en ai marre, je passe ma journée à faire ça, c'est insupportable, j'en peux plus et tout. Et bon, après discussion, elle est repartie chez elle et alors elle a trouvé une phrase que j'ai trouvée extraordinaire. D'ailleurs, je l'en remercie, je l'utilise régulièrement maintenant. Elle a dit à ses enfants, « Un jour, vous comprendrez qu'il y a des façons moins douloureuses de gérer ces conflits. »
D'accord.
« Mais en attendant, si vous voulez vous taper dessus, allez-y. »
D'accord. Oui, ça fait un choc d'un coup là. Ah oui.
Mais parce qu'elle était passée par cette phase d'explication, qu'elle avait vu que ses enfants étaient quand même compétents et capables de faire quelque chose. Et donc, elle a fait ça et elle a dit, après, j'ai regardé. Et est-ce qu'elle a constaté ? Donc, oui. elle avait un peu peur au début, c'est normal. Hein.
Oui, moi, ça me ferait peur.
Voilà, elle était un petit peu stressée, mais elle a quand même observé pour voir ce qui se passait. Et qu'est-ce qui s'est passé, à ton avis ?
Ben, je sais pas. Ben, alors oui, bon, dans l'histoire, je pense qu'en gros, ils se sont réconciliés, tu vois. Ils ont trouvé une solution.
Oui.
Mais, ouais, non, moi, j'aurais pas imaginé ça comme ça, franchement.
Ils ont trouvé une solution. En fait, ça a commencé à monter. Et puis, au bout d'un moment, alors c'était une relation assez équilibrée, parce que ça vaut le coup aussi de se poser la question avant de laisser les enfants gérer tout seuls. Il faut quand même vérifier que c'est relativement équilibré,
voilà.
Qu'il n'y en a pas un qui prend toujours le dessus sur l'autre et tout ça. Donc, là, en l'occurrence, c'est monter un peu. Et puis, il y en a un des deux qui a fait dégénérer le truc en jeu parce qu'il s'est bien rendu compte que ça partait, que ça n'était pas constructif.
D'accord.
Pourtant, c'est des enfants petits. Hein. Et à chaque fois qu'elle avait des situations comme ça, en fait, ça s'est rééquilibré un coup l'un, un coup l'autre, et ça partait en jeu, et voilà.
Ouais.
Et ils géraient leur conflit tout seuls, et elles n'avaient plus à intervenir.
C'est incroyable quand même. Enfin, c'est incroyable. Oui, non, ça peut être logique en même temps, mais...
Ben, c'est logique.
Oui, parce que ça reste des humains quand même, même s'ils sont jeunes.
Parce que ce sont des humains responsables.
Oui, exactement.
Qui n'ont pas pour intention de se faire du mal.
Oui. Donc, comme quoi, on peut se rendre compte, si nos enfants ont l'intention de faire du mal dans leur vie, on peut se rendre compte. J'essaye vraiment de casser les gens, là. Tu vois, les pauvres.
Non, c'est quand même négatif.
Mais toi,
t'essayes
d'être positive. Moi, j'essaye d'être le côté négatif dans l'histoire.
Bon, donc effectivement, ça peut paraître surprenant, mais ça peut être intéressant de les laisser un petit peu gérer tout seul, ne serait-ce que déjà pour voir comment ils s'y prennent et est-ce qu'il leur manque pas une compétence.
Et puis, c'est un gros apprentissage, ça c'est bon pour la suite, quoi. C'est vrai.
Oui, exactement. Mais ça suppose quand même, comme je le disais, qu'on leur ait montré comment on résout les conflits de façon constructive. Dans la situation de Anne, ça pourrait se manifester en disant, par exemple, quand la grande appelle en disant « Ah, maman, ma petite sœur m'embête et tout ça », la maman peut venir et dire « Ah là là, oui, c'est un problème compliqué, mais je suis sûre que vous allez trouver une solution » et de repartir.
D'accord.
Et de voir ce qui se passe.
Voir un petit peu et puis voir de loin, quoi.
Voilà, de voir de loin comment ça se passe. Moi, j'inviterais aussi, dans cette situation, la maman à voir la situation d'un œil un petit peu différent, parce que j'ai l'impression de lire, moi, au travers de cette description, c'est que la grande se victimise un petit peu.
Pourquoi ?
Ne me regarde pas comme ça avec des grands yeux ronds.
Non.
Est-ce que vous aussi, derrière vos ordinateurs, vous nous regardez avec vos grands yeux ronds ?
Non, mais oui, parce que moi, je trouve ça étrange. Pourquoi tu me dis ça ? Pourquoi tu dis ça ?
Qu'est-ce qui te surprend dans ce que je dis ?
Mais pourquoi les...
Pourquoi la grande se victimise ?
Pourquoi la grande se victimise un petit peu ?
Eh bien, en fait, regarde bien. Elle est tranquille en train de jouer. Quand sa sœur arrive, elle appelle au secours. Genre, je ne peux pas me défendre toute seule. D'accord ?
Oui, ça je comprends.
Première étape. Ensuite, elle obtient l'intervention de sa maman. Sa petite sœur n'arrive pas à se faire entendre et donc finit par la taper. Elle, tu remarqueras qu'elle ne répond pas, ne riposte pas, elle ne se défend pas.
Oui, mais alors, parce qu'elle a l'habitude peut-être aussi. Elle sait comment ça se passe avec sa mère.
C'est-à-dire ?
Elle sait comment se passe le conflit à chaque fois.
Oui, et donc comment se passe le conflit ?
Oui, elle se victimise, t'as raison finalement, puisque c'est sa mère qui intervient toujours.
La maman intervient, parce qu'elle enlève la petite sœur, la laisse jouer, tranquille avec ses Playmobil.
Et c'est ça en fait, oui. Mais non, excuse-moi alors.
Tu vois ?
Ouais.
Donc, finalement, elle a quelques bénéfices dans cette situation, la grande.
Bah oui, même beaucoup, oui.
À se plaindre de sa petite sœur.
Je pense même que du bénéfice, quoi.
Parce que, bah, que du bénéfice,
bah,
je sais pas.
Jusqu'à maintenant, que... oui. Jusqu'à partir de maintenant, ça va être différent.
Elle est un petit peu quand même... Donc, si elle se plaint, c'est qu'il y a des choses qui lui sont inconfortables. Oui. Donc, je peux pas dire qu'il y a que du bénéfice, mm-hmm. mais il y a un certain bénéfice.
Oui, mais alors là, on peut en venir justement au point où c'est plutôt... C'est presque... Alors là, de la jalousie pour le coup. Parce que ça peut devenir de la jalousie après en se disant « Non, non, ça, c'est à moi, c'est tout, c'est pas aux autres, hein, je veux dire. » Tu vois ce que je veux dire,
c'est, ouais, alors je sais pas si ça, c'est de la jalousie.
C'est pas de la jalousie, mais... non. C'est pour ça que je te dis, c'est un peu... je sais pas comment dire, oui, comment on dit,
l'égoïsme, quand,
voilà, l'égoïsme, tout simplement, ouais. De l'égoïsme.
Ça pourrait, mais donc les, alors je modère quand même mes propos, c'est-à-dire mm-hmm. que les bénéfices qu'elle trouve dans cette situation, elle fait pas ça de façon volontaire. Les enfants ne font pas ça de façon volontaire. Mm-hmm. C'est-à-dire que ça s'est installé comme ça et que elle ressent.
C'est la facilité.
Voilà, elle ressent un certain bénéfice et donc elle ne sait probablement pas comment faire autrement.
Ouais.
Du coup, moi, ça me conforte dans l'idée que, sans doute, poser le truc comme je venais de le dire, c'est-à-dire, ah oui, bah ça, c'est compliqué, hein, vous voulez... ta petite sœur, elle veut jouer avec toi, et toi, tu préférerais jouer toute seule. Bon, bah, je suis sûre que vous allez trouver une solution. Ouais. Et de ne pas forcément pallier au fait que la grande sœur se plaint et qu'elle se fait taper dessus. Et j'allais même dire, parfois, il est opportun que les enfants se fassent un petit peu taper dessus.
Ouais,
pour, je sens que tout le monde bondit quand je dis ça.
T'as des envies bizarres, on va dire, en ce moment, non? Ça va? Ça va avec ton mari? ça se passe bien? Et avec tes enfants aussi?
Pourquoi est-ce que je dis ça?
Ah ben vas-y, raconte-nous, parce que là, ça nous étonne un peu. Je pense que si on n'avait pas de réaction, on va en avoir.
C'est ça, tout le monde va dire n'importe quoi, elle est folle, elle est devenue folle, Sandrine est devenue folle. En fait, je vous raconte une autre situation qui m'a été rapportée il y a... Tout début juin, j'ai fait une conférence à Nantua et j'ai une maman qui m'avait rapporté une situation et ça va vous éclairer sur la question. C'est la question des bénéfices secondaires aussi, encore une fois.
Oui.
C'est-à-dire qu'elle me dit, voilà, j'ai mon fils qui tape sa sœur. Donc le fils avait 2 ans et il tape sa sœur et j'ai beau le gronder, le punir, lui dire que c'est pas bien et tout ça. Ça ne marche pas, il continue. Bon, je lui dis, mais comment ça se passe? À quel moment il tape sa sœur? Alors, elle m'explique qu'ils sont en train de jouer tous les deux. Et généralement, elle joue à la maîtresse, la grande.
D'accord. Okay.
Et donc, elle dit à son petit frère, tu fais ci, tu fais ça, tu fais machin.
Elle aime bien diriger le truc.
Elle aime bien diriger le truc. Bon, super. Et, sauf que le petit, au bout d'un moment, il en a marre. Et à ce moment-là, il manifeste un peu. Et puis, comme ça continue, il prend le premier truc qui lui passe sous la main et bam!
D'accord.
Il flanque un grand coup sur la tête de sa sœur. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La grande pleure. Il m'a fait mal. La maman intervient, gronde le petit.
Oui.
Et, les sépare, du coup.
D'accord. Et ça, c'est pas bon?
Eh ben, le petit, c'est parfaitement fonctionnel de taper sur sa sœur, du coup.
Oui.
Parce que s'il la tape pour lui dire arrête de m'embêter, en gros, c'est ça qu'il dit, et ben c'est ce qu'il obtient.
Oui, mais ouais.
Tu vois?
Oui, c'est ce qu'il obtient, mais quand même, il se fait frapper lui aussi.
Mais il se fait pas frapper, en l'occurrence, la maman le tape pas, mais il se fait gronder et punir.
Non, gronder, enfin oui, je veux dire.
Oui, voilà. Il y a des inconvénients, hein. Il y a des inconvénients.
Je parais encore plus louche que toi, pour le coup, tu vois.
Il y a des inconvénients pour les deux.
Ouais.
Par contre, pour la grande,
ouais.
Il y a aussi des avantages dans cette situation.
Oui, parce que du coup, oui, elle en profite un maximum.
L'inconvénient, c'est qu'elle se fait taper. L'avantage, c'est que du coup, sa maman s'occupe d'elle, qu'elle passe pour la pauvre petite fille qui subit les violences de son frère, tu vois. Et alors qu'en fait, elle a une part de responsabilité. Donc là aussi,
une grosse part finalement, ouais. Parce
oui,
qu'elle imposait quand même pas mal de choses.
C'est une petite fille, hein. Faut pas.
Oui, non, mais dans le jeu d'enfant. Elle a une grosse part de responsabilité par rapport à son frère.
C'est important de comprendre que si on continue à imposer des choses à quelqu'un qui ne veut pas, il va finir par se rebeller.
D'accord, ouais, bah oui.
Dans la vie, vaut mieux savoir ça, ça aide.
C'est vrai, c'est vrai.
Tu vois ?
Donc je vais éviter de jouer au maître alors, à l'instituteur.
Mais tu peux, mais en étant à l'écoute
alors
de l'autre.
D'accord, alors tu récites là, s'il te plaît.
Donc du coup, tu vois, vraiment, pour cette petite fille, c'est un peu la même situation, la même situation et la même, du coup, orientation. Ça vaudrait le coup de ne plus intervenir.
Oui,
dire, bah oui, c'est vrai, c'est embêtant. Tiens, qu'est-ce que tu pourrais faire? Tiens, qu'est-ce qui fait que ton frère t'a tapé, par exemple?
Ouais. Poser des questions, plutôt arranger les choses au lieu de,
de
toujours réagir de la même manière en grondant l'un, faisant l'autre. Ouais,
pour essayer de comprendre, parce que la situation est logique, toujours.
Bah oui.
Elle a une certaine logique, mais on passe parfois à côté. Ok
bah, très
donc
bien.
Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question de Anne.
Bah, en tout cas, moi j'ai compris pas mal de choses. Donc c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal.
Ça veut dire que, voilà, au moins tu as aidé des gens là.
Exactement.
Pas que moi, j'espère. Sinon, on se fait une émission entre nous, si tu veux. Mais entre nous, entre nous.
Entre nous, entre nous. Donc voilà, dans la situation de Anne, enfin si je voulais juste finir sur le elle propose à sa petite de taper sur un oreiller pour montrer sa colère, ouais, etc. C'est intéressant, mais comme je dis souvent, il n'y a pas de bonne façon de faire quelque chose qui, mmh, ne fonctionne pas. Donc là, elle est en train de dire à la petite sœur, ne tape pas ta grande sœur. Ouais. Mais je pense que ce qui se passe, c'est que la petite sœur voudrait faire entendre autre chose. C'est pour ça que j'avais fait l'hypothèse au départ de peut-être est-ce que elle se dit je veux jouer avec ma sœur ou voilà,
oui,
et que du coup c'est pour ça qu'elle devient violente, c'est parce qu'elle dit mais ce que je veux dire vraiment n'est pas entendu.
D'accord.
D'où l'intérêt de changer un peu d'orientation.
Ouais, et de c'est pas bête.
Voilà.
Très bien, merci.
Bon, Anne, j'espère que ça répond à ta question.
Voilà, bah elle peut même te répondre, hein, pour voir.
Bah oui, si elle écoute. Je ne sais pas si elle écoute. Après, les gens écoutent parfois en
podcast,
replay. Voilà, donc ça, je ne sais pas.
Ah bon, on verra ça. Elle pourra nous envoyer même des emails. Et puis, à ton email qui marchera bientôt, parce que j'ai l'impression que ça marche pas trop bien. Hein.
Oui, c'est l'email de Bugey Radio. Mon email perso, il marche, mais l'email sandrine.donzel@bugeyradio.fr, il marche pas.
Apparemment, il a du mal. Ouais, je sais pas pourquoi. Il fonctionne, mais non.
Exactement. Bon, vous pouvez réagir si vous voulez.
Voilà.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Olivier?
Qu'est-ce qu'on fait? On met une petite musique, quelques petites musiques peut-être. Il va y en avoir. Alors, on va dire quelques petites musiques parce que je ne vois pas la suite. Donc, il y en a deux sûr. D'accord?
Ok. Puis, il y aura le journal après tout
ça. Et il y a le journal, la météo. Et puis, après, on se retrouve pour le sujet du jour.
Exactement.
Bien sûr.
À tout de suite.
À tout de suite sur Bugey Radio. Il est 9h46. Tout de suite, c'est Katy Perry et ce sera Louise Attaque. Je t'emmène au vent sur Bugey Radio.
Bugey Radio. Info, musique, culture. Tous les jours en direct, Bugey Radio.
Et moi, je vais faire une chose, c'est que je vais vous rappeler le numéro de téléphone 04 57 29 04 18 sur entre nous, sur Bugey Radio. Vous pouvez tout simplement nous envoyer vos messages sur le chat ou sur la page Facebook de Sandrine. Et de retour dans l'émission Entre nous avec Sandrine Donzel. Il est 9h56, c'était Robin Thicke et Pharrell Williams apparemment, voilà.
Votre radio, vos émotions.
Et on reprend cette émission.
Tout à fait, on reprend. Donc, je voulais juste revenir pour conclure sur la situation de Anne, parce qu'elle nous a mis un petit commentaire sur le chat que j'ai vu passer.
Il y a plusieurs personnes, oui.
Oui, il y a plusieurs personnes, donc on va répondre après. Elle m'a dit, oui, il y a des moments où mes filles savent gérer certains conflits quand l'aînée est assez motivée, a-t-elle écrit sur le chat. Puis elle m'a envoyé aussi un mail en même temps pour préciser. Donc ça va dans l'idée aussi que il y a un truc important à savoir. À quoi sert la plainte?
Ah, je ne sais pas, oui, c'est vrai. Ben, à obtenir quelque chose, non?
Voilà. Ce qu'il y a, c'est que quand on se plaint, parfois, on obtient qu'une personne empathique qui passe par là fasse les choses à notre place.
D'accord.
Et je pense que c'est probablement un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire, parce qu'elle le dit très bien, Anne, elle me le dit, l'aînée est capable de gérer bien des conflits avec sa sœur, elle lui propose un autre jeu ou bien l'intègre au sien, mais quand elle appelle maman, elle exprime ce que j'interprète comme l'envie de ne pas s'investir dans la résolution du conflit. Ce qui est probablement tout à fait exact. Mais du coup, en palliant à ça et en résolvant le conflit à sa place, pour elle, encore une fois, c'est avantageux. Donc,
c'est vrai.
Une chose très importante à garder en tête, on ne fait pas changer quelqu'un qui n'a pas de problème.
Oui, bah oui.
Donc là, la grande, elle n'a pas de problème. Quand elle a envie de résoudre le conflit, elle le fait. Quand elle n'a pas envie, elle appelle au secours et quelqu'un résout le conflit à sa place.
Oui, en gros, oui. Bah oui.
Donc, il n'y a aucune raison qu'elle se force à résoudre le conflit.
C'est ça.
Puisque c'est résolu à sa place.
Voilà, puisqu'elle sait qu'il y a une facilité. Comme je disais tout à l'heure, c'est une facilité pour elle.
Ouais.
C'est
Alors, encore une fois, elle ne le fait probablement pas intentionnellement.
Non,
mais
c'est une facilité dans la vie pour tout le monde. C'est, voilà, des fois, ce n'est pas intentionnel non plus, mais en fait, voilà.
Donc, ça me conforte, moi, vraiment dans l'idée d'aller dans ce que je proposais tout à l'heure, c'est-à-dire de dire, ah bah oui, c'est compliqué, mais alors, mince, comment tu vas faire pour gérer ça? Et de ne pas résoudre le problème à sa place.
C'est ça.
Voilà. Bon, Olivier, je te laisse la parole pour les infos maintenant ou tu veux que je parle encore un petit peu?
Non, c'est parti. Si t'as envie, il y a les infos alors. Et on commence ce journal par une info Facebook pas très réjouissante. Près de 700 000 utilisateurs du réseau social Facebook ont été manipulés entre le 11 et le 18 janvier 2012 dans le cadre d'une étude scientifique réalisée par les universités Cornell de Californie à San Francisco. Cette recherche portait sur la contagion émotionnelle. Les flux d'actualité des utilisateurs ont ainsi été modifiés, faisant apparaître plus de messages positifs ou négatifs. L'étude publiée le 17 juin révèle alors que les utilisateurs manipulés écrivent des messages plus positifs ou négatifs en fonction de cette modification de leur actualité, mais ils transmettent également ces émotions aux autres utilisateurs. Facebook refuse d'être accusé de manipulation. Cette recherche a été menée pendant seulement une semaine et aucune donnée utilisée n'était liée au compte d'une personne en particulier, a déclaré Isabelle Hernandez, la porte-parole du réseau social. 37 personnes ont été bloquées pendant 37 personnes ont été bloquées pendant plus de 3 heures dimanche dans un téléphérique à Grenoble en Isère. Elles ont finalement été évacuées par hélicoptère par les pompiers et le groupe d'intervention en milieu périlleux. Aucun blessé n'est à déplorer. François Hollande s'est engagé, quoi qu'il arrive, à maintenir la contribution de la France au Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Lors d'une visite surprise à Solidays aujourd'hui, j'ai décidé, quoi qu'il arrive, de maintenir à l'identique cette contribution, a-t-il déclaré lors d'une rencontre avec les bénévoles du festival organisé par Solidarité Sida et à laquelle a pu assister l'AFP. Le chef de l'État a souligné que la France était le deuxième plus gros contributeur de ce fonds. François Hollande a rappelé qu'il s'y était engagé pendant la campagne présidentielle à l'occasion de sa première venue à Solidays il y a 3 ans. La préfecture de l'Isère a annoncé le renforcement demain des mesures de sécurité en marge des rencontres de la Coupe du Monde de football dans plusieurs villes du département afin d'éviter les débordements qui avaient suivi des rencontres précédentes. Des incidents avaient éclaté notamment à Grenoble après les matchs de l'Algérie contre la Corée et contre la Russie. L'Algérie doit affronter demain l'Allemagne en 8e de finale de la Coupe du Monde à 22h. La France joue contre le Nigeria à 18h. Et on termine par un flash spécial élection de la super mamie, Bernadette Cremades, 62 ans, mère de 3 enfants et 2 fois grand-mère, a été élue hier soir à Nice Super Mamie France 2014. Passionnée de théâtre, engagée dans la vie associative, Bernadette, grand-mère d'une petite fille autiste, déjà Super Mamie Bourgogne, a été désignée parmi 12 grand-mères et arrière-grand-mères de 53 à 87 ans, représentant autant de régions françaises mais aussi la Wallonie en Belgique, engagée pour la première fois.
Purée, 3h30 dans un
téléphérique. Ça fait beaucoup quand même, ça fait énorme.
Bon.
Allez, la météo. Le temps sera ensoleillé cet après-midi avec une température plutôt douce de 21 degrés. Il y aura du soleil avec quelques passages nuageux en soirée. Et cette nuit, il fera 17 degrés.
Waouh, il va faire chaud.
Non, il va faire froid, je trouve, non?
Je sais pas, ça dépend.
Pour moi, je trouve que c'est froid. On reprend? Allez, c'est reparti.
Allez. Bon, donc on va reprendre avec les questions, différentes questions. Alors, il y a pas mal de questions sur des situations où il y a un écart d'âge important.
Oui.
J'en avais reçu une, moi, déjà par email. Et puis, il y a Mariam sur le chat qui dit « À l'adolescence, les relations entre les enfants changent. Comment faire pour protéger les petits sans écraser le grand en attendant que chacun retrouve sa place ?» Alors, il y a plusieurs choses. Il y a une question qui m'a été envoyée par Magali. Donc, elle a 2 enfants qui ont 4 ans et demi et 1 an. Et elle essaye d'expliquer au grand que le petit a le droit de faire des trucs que lui n'a pas le droit de faire.
Oui.
Ce qui est assez compliqué, visiblement. Elle donne l'exemple de, voilà, le grand de 4 ans et demi jette des objets dans la pièce. Je ne suis pas d'accord, mais que mon petit de 1 an jette des choses depuis sa chaise haute en attendant qu'on ramasse, ben pour moi, ça fait partie de ce que je dois faire. Un petit de 1 an, je vais y arriver, ça. Ça fait partie du développement et je ne me fâchais pas quand le grand au même âge le faisait. Alors effectivement, c'est une situation qui peut paraître injuste pour le grand,
oui.
Puisque de fait, il voit le petit qui jette et lui, il peut pas jeter.
Bah oui.
Donc c'est logique qu'il ressente une injustice et d'ailleurs Magali dit « je le comprends ». Elle dit « oui, le petit ne comprend pas, il est trop petit pour contrôler sa main parce que le petit a le droit de le taper, enfin le tape parfois ». Alors Magali, par contre, j'attire son attention sur le fait que quand le grand tape, ça veut dire qu'il a l'intention de faire mal et quand le petit tape, il n'a pas cette intention-là. Alors, c'est un petit peu vrai, c'est-à-dire que les petits, parfois, ne contrôlent effectivement pas leurs mains et vont donner une tape un peu forte au lieu de toucher doucement.
Oui, ben
donc
oui.
Ça, ça fait partie des apprentissages. Par contre, j'attire son attention, quand le geste est visiblement violent, c'est-à-dire qu'ils sont en train de se disputer ou quoi, et que le petit tape, il a l'intention de faire mal.
Oui, ben oui.
Enfin, l'intention de faire mal, je ne sais pas, mais l'intention de faire réagir, de faire cesser la situation qui ne lui convient pas.
Oui.
Toujours.
Plutôt ça.
Et le grand aussi. C'est-à-dire que quand il tape son petit frère, à mon avis, il ne le tape pas comme ça gratuitement. Mmh. Il le tape parce qu'il y a une situation qui l'a amené à le faire. Donc, c'est à garder en tête parce que c'est un peu la situation que je décrivais tout à l'heure avec le petit garçon qui tape sur sa sœur. Mmh. Tant que l'enfant n'aura pas trouvé un moyen plus adéquates et qui fonctionnent mieux, plus efficaces pour gérer la situation qui lui pose problème, il va taper. C'est humain, c'est logique.
C'est logique, oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est plutôt logique. Oui.
Et c'est incontournable, c'est-à-dire s'il arrête de taper, il se met en difficulté parce que ça veut dire qu'il se force à accepter un truc qui n'est pas acceptable pour lui.
Et c'est notre côté animal un peu, je pense, tu vois.
Oui, mais c'est aussi une forme de respect pour soi-même parce si je suis obligée d'accepter quelque chose qui me, fait, qui me met en difficulté, qui me met mal à l'aise, qui m'est désagréable, faut quand même être sacrément bizarre pour accepter.
Je pense, oui. Faut se laisser faire.
Voilà.
Il paraît qu'il faut s'appeler Jésus pour ça.
C'est ça, moi je dis souvent, il n'y a que les fous ou les saints qui sont capables de faire ça. Moi pas.
Mais voilà, nous les humains,
nous, les humains
c'est vraiment très difficile, c'est vrai.
Donc du coup, je ne sais pas si il y a une question de réagir équitablement, parce que ce que me dit Magali, c'est je ne sais pas agir équitablement sans que mes explications dénigrent le petit dernier. Peut-être aussi qu'on peut faire confiance aux enfants pour savoir se défendre. Parce qu'elle explique aussi que ses deux enfants, par exemple, le grand, dès qu'il s'ennuie ou qu'il vient de voir une frustration, je lui refuse de lui mettre un dessin animé, par exemple, il saute sur son frère, il l'attrape par le cou, il le serre trop fort, il le tire. Quand il lui parle, c'est en onomatopée, en serrant les dents et les poings. Il l'entraîne à faire des choses dangereuses, comme monter en haut du canapé dans les escaliers, de préférence quand j'ai le dos tourné.
Oui, bah voilà, autant.
Comment faire pour que le grand ne se retourne pas contre le petit? Et elle dit, quand je demande au grand « qu'est-ce qu'il ressent ton frère ?», il me dit avec un grand sourire « il a mal » et il recommence. J'interviens pour les séparer, mais comme un aimant, il revient deux secondes après. C'est d'autant plus déstabilisant que le petit va chercher le grand en rigolant alors qu'il se fait taper dessus. Bon, déjà, si le petit va chercher le grand en rigolant, il n'a pas l'air de énormément souffrir de la situation,
oui,
si je peux me permettre. Donc peut-être que là aussi, on peut les laisser un peu gérer en autonomie et qu'ils vont rééquilibrer les choses. Parce que parfois, on s'imagine que le petit est faible.
Et oui, mais pourtant non, des fois non.
Mais c'est ça, peut-être qu'ils sont capables de se défendre. Oui. C'est une forme d'étiquette, parce que dans la fratrie, il y a un problème qui revient souvent, c'est les étiquettes. C'est-à-dire qu'on voit certains enfants plus comme ci, plus comme ça. Donc il y a le un
c'est
peu
intello. C'est les stéréotypes.
Mais
finalement,
oui, c'est une forme de stéréotype.
Ça, ouais.
Il y a le un peu intello, il y a la victime, il y a le bourreau, l'agresseur. Ouais, enfin, bah tu vois, il y a plein de choses comme ça. Et que du coup, si on rentre dans ces considérations-là, on agit toujours de la même façon et on n'aide pas les enfants à sortir de ces rôles. Donc peut-être que ça vaudrait le coup de sortir de ça et de peut-être dire au petit, je pense que t'es capable de gérer ça tout seul, toi.
C'est clair. C'est clair, il faudrait essayer, il faut tenter le coup, de toute façon.
Voilà.
Qui ne tente rien n'a rien, on va essayer.
Ça ne veut pas dire qu'on ne lui propose pas de l'aide et qu'on lui dit, tu vois, si tu as besoin d'eux et qu'on reste attentif. Mais voilà. Il y a autre chose sur lequel je voudrais revenir, alors qui n'est pas forcément directement en lien avec cette situation, mais qui est un truc qu'on fait très souvent dans les fratries, et je voudrais absolument en parler avant de continuer à répondre aux questions. C'est la recherche de l'égalité.
Oui.
Je sais pas comment tes parents ils géraient ça, toi, Olivier.
Alors, ben justement, eux, ils l'ont assez bien géré, je trouve. Mais enfin, c'est moi qui vois ça, en fait. C'est-à-dire que pour mes frères et sœurs, c'est peut-être différent, tu vois.
Probablement.
Et je me rends compte maintenant que des fois, ils ont pas tort. Pas mes parents, je parle de mes frères et sœurs.
Ouais.
Moi, j'ai toujours trouvé que c'était assez, bien géré. Je trouvais qu'ils étaient, que tout le monde était à peu près à part égale. Mais bon, voilà, c'était ma vision plutôt d'enfant, on va dire, et d'enfant un petit peu gâté quand même, hein. Je dois l'avouer, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais ouais, il y a une différence quand même qui se fait ressentir à certains moments, et pas qu'avec moi, c'est-à-dire avec d'autres personnes aussi, frères ou sœurs. Et c'est vrai que c'est plutôt difficile pour les parents de gérer une situation comme ça.
Oui.
Je pense, ouais.
En fait, on croit souvent que les enfants ont besoin d'avoir tous la même chose.
Oui.
Ce qui n'est pas vrai.
Non, ben non, voilà, oui, justement. Et eux, par contre, ils faisaient pas ça. Et moi, je trouvais ça
voilà,
bien.
Ça, c'est super important.
Voilà, ils avaient envie de faire quelque chose à un enfant, ils faisaient quelque chose à un enfant. C'est ils sont ça. Pas obligés de le faire à tout le monde.
C'est ça. Parce que, du coup, chacun a des besoins différents. Mm-hmm.
Oui.
Chacun va, certains sont plus câlins, d'autres ont envie de passer du temps tout seul avec nous. Pour d'autres, ça dérange pas si on est tous ensemble, mais s'ils ont une attention de qualité, voilà, quand ils ont besoin. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et souvent, on est, alors il y en a un qui a un cadeau, alors on croit qu'il faut qu'on fasse le même cadeau aux autres,
voilà,
ou
oui.
un cadeau équivalent. Enfin voilà. Ce qui se passe, c'est que du coup, on crée la comparaison entre les enfants.
Oui.
Tu vois ?
Oui, bah oui, c'est ça.
Une image que j'utilise souvent, c'est si tu prends un gâteau. Et que tu essayes de le couper en parts égales.
Oui.
Les gens autour de la table, ils font quoi ?
Ils vont essayer de trouver la part la plus grosse.
Exactement. Ils regardent en disant oh, mais celle-là est plus petite, celle-là est plus grosse, t'as pas coupé bien au milieu et tout ça.
Oui.
Alors que
en
si.
En disant bah tiens, non, moi j'en veux une petite, prends la plus grosse, tiens, mais c'est laquelle la plus grosse ? On
oui,
va
c'est
chercher.
Ça. Alors que si avant de couper le gâteau, on dit tiens, est-ce que quelqu'un veut plutôt une grosse part, une petite part, qui veut quoi ? On peut supprimer ce problème de comparaison.
C'est vrai.
Et on ne se compare que quand on estime qu'on n'est pas satisfait.
Ouais, bah oui.
Si toi, tout va bien dans ta vie, que ton boulot te plaît,
de se comparer
que
à quoi
voilà,
que ce soit.
Bah, tu vas te comparer, c'est assez humain, mais tu vas pas te comparer en disant oh là là, l'autre, il a une plus grosse voiture.
On va pas râler, on va dire. Voilà.
On va pas râler, on va dire ah oh, super, dis donc, t'as décroché un super boulot, je suis content pour toi et tout ça. Tu vois ce que
oui,
je veux dire
oui, mais je vois bien.
Et entre enfants, c'est pareil. C'est-à-dire que quand les enfants se plaignent d'injustice. D'inégalité ou qui sont beaucoup à comparer, tu lui en as donné plus qu'à moi, tu lui as dit ceci et pas à moi, t'as fait ceci et pas, ça veut dire que eux ils ont besoin d'une chose pour eux-mêmes.
Oui, bah oui.
Donc ça vaut le coup de sortir de cette comparaison quand ils se plaignent d'injustice, de sortir de la comparaison. S'ils disent t'as eu mon frère il a eu plus ou ma sœur elle a eu plus, ok, on parle pas de ton frère ou de ta sœur, on parle de toi. Qu'est-ce que tu veux toi là maintenant?
Ouais, bah oui.
Tu lui as donné plus de jus de fruits qu'à moi. Ça, c'est classique.
Bah oui.
Bah écoute, on parle pas de ton frère ou de ta sœur. T'as encore soif ? Tu reveux du jus de fruits ?
Voilà, oui.
Tu vois, c'est
bah
tout simple.
C'est pas bête, ouais, franchement.
C'est tout
vrai,
simple.
C'est une très bonne technique.
Et ça permet de désamorcer la comparaison. On n'est pas en train de comparer les enfants entre eux. On essaye de donner à chacun ce dont il a besoin.
Bah oui.
C'est important, hein ?
Ouais. C'est pas bête. C'est une très très bonne technique. Merci. Merci, Sandrine.
Donc ça s'applique aussi du coup quand les enfants disent « Ouais, je voudrais que mon frère soit pas là » et tout ça. Ou alors, une autre chose, c'est quand les enfants disent « Tu aimes mon frère plus que moi » ou « Tu aimes ma sœur plus que moi ». Ça, ça arrive qu'ils le disent parfois. Donc dans ces situations-là, c'est important de reconnaître que... Parce qu'on a tendance à se justifier. Et à dire, mais non, c'est pas vrai. Et
bah
du
oui.
coup, à rentrer dans la comparaison, regarde, j'ai fait ça pour toi, j'ai fait ça pour toi, j'ai fait ça pour toi.
Ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Et après, l'autre va chercher, puis ça fout un bordel. Pas
c'est
possible.
Ça.
Ça peut être terrible.
Donc, du coup, de sortir de cette comparaison en disant, tiens, il y a quelque chose qui t'amène à penser ça. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, qui t'a amené à penser que je ne t'aime pas ? Parce que parfois, ils ont mal interprété nos actions.
Ben oui.
Où on a effectivement des raisons de... Ils ont effectivement des raisons
S'ils ont des raisons, après voilà, ça peut arriver aussi.
Je te donne un exemple, c'est une situation où il y a un enfant qui a un comportement assez difficile, donc les parents sont un peu en tension, et une petite sœur qui est plutôt cool.
Oui.
Et donc forcément, les relations avec la petite sœur sont plus simples.
Ben oui.
Et donc forcément, les parents, c'est logique, vont plus spontanément aller vers la petite sœur pour les moments de plaisir.
Bah oui, parce qu'il n'y a pas à céder, du coup.
Voilà, il n'y a pas une tension.
Voilà, ben voilà, ouais.
Et le grand frère se plaint que ce n'est pas juste. Il a raison.
Ben dans un sens, oui. Dans un gros sens, même.
Mais du coup, tant qu'on ne lui pose pas la question en disant « Tiens, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour te faire penser aussi que je t'aime ?» J'ai peut-être fait des choses maladroites qui t'ont fait penser que je ne t'aimais pas. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est ?
Voilà, les raisons.
Voilà, et pour comprendre et après agir. Et même inciter l'enfant à se questionner sur ce dont il a besoin. Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire de différent avec toi ? Pas en rapport avec ton frère ou
ta sœur. Oui, ne jamais donner de raison pour laquelle
on
ferait ça, ouais.
Qui te ferait penser que je t'aime autant que ton frère ou ta sœur.
Oui.
tu vois ?
Bah ouais.
Ok.
C'est pas bête.
Bon, on continue avec les questions donc qui ont été posées parce que j'ai pas complètement répondu à Magali avec le fait que.
Elle te remercie quand même sur le chat.
Bon, super. Voilà.
Merci de ta réponse. Je vais essayer de laisser faire et faire confiance aux deux pour gérer ça. Ça va être dur, dur, lol. Elle marque. Surtout avec la violence physique, lol. Une nouvelle fois, mais on va tenter ça. On va tenter ça.
On va tenter, non, ça,
on
me
va tenter ça me rendra peut-être plus zen. Voilà,
merci Magali. Donc voilà, ça c'est une première chose.
Juste une petite info pour toi. Apparemment, d'après Isa, on aime bien quand tu danses sur ta chaise.
Ouais.
Voilà.
Bon, d'ailleurs, Isa pose une question, mais je vais quand même revenir parce qu'il y a Loette qui m'a posé une question sur Facebook, qui me dit « Mon grand, quand il est en colère, ne gère pas son émotion et est extrêmement violent. Je ne peux pas laisser le petit 3 ans et demi qui l'embête sans arrêt se faire taper dessus, sinon on file direct aux urgences. » Ok. J'interviens en amont en demandant au petit d'arrêter d'embêter son frère, mais il recommence. Il essaie d'attirer l'attention de son frère qui, lui, probable TSA. Donc TSA, c'est les troubles du développement, enfin voilà, ils ont plus de difficultés à gérer leurs émotions et
du
tout ça.
Du coup, c'est plus compliqué.
Voilà,
ce
c'est plus compliqué. Juste, effectivement, là, il y a parfois un déséquilibre où il y a un des deux enfants qui a besoin d'apprendre des compétences spécifiques. Je pense que c'est le cas de Loette, que je connais un petit peu, donc c'est pour ça que je me permets aussi de faire cette hypothèse. Le fait que le grand veuille rester isolé est peut-être pour lui une stratégie de défense, parce que comme il sait qui va avoir du mal à se gérer et qui va probablement être violent, il essaye de s'isoler pour ne pas être amené à être violent.
Je ne connais pas trop cette forme de maladie, enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de trouble, on va dire.
Ouais.
Comment ça peut se traduire ? C'est-à-dire, est-ce qu'il est conscient de ça ?
Alors, c'est toujours pareil avec les enfants, c'est difficile de dire. Et puis même, c'est même difficile
plus adulte,
de dire de quoi on
savoir,
est conscient réellement. Mais c'est assez probable quand même que
qu'il
tu vois
une forme de stratégie derrière.
Voilà, de stratégie parce qu'il a expérimenté émotionnellement que quand il était isolé, il n'était pas amené à avoir des comportements qui n'étaient pas acceptables.
Bah oui.
Tu vois ce que je veux dire ?
C'est une stratégie presque d'autodéfense en fait.
Exactement, toujours.
Ouais. Oui, toujours. Finalement. Ouais.
Presque toujours. Enfin, c'est non, ça. Toujours.
Oui.
Je l'affirme. Toujours. Et ça vaut le coup de réfléchir aux situations dans ces termes-là. Donc, si le grand sent qu'il va être méchant avec son frère, du coup, il s'isole.
D'accord.
C'est pas forcément une très bonne stratégie parce que ça lui évite de se confronter au problème et donc d'apprendre à gérer la situation de façon constructive. S'il explose quand il est en colère, ça veut dire aussi qu'il serait intéressant de lui apprendre à réagir plus tôt.
Mmh.
C'est-à-dire de ne pas attendre d'être vraiment monté très haut dans l'émotion et donc pour pouvoir réagir de façon constructive.
Et comment on peut faire réaliser un tel exploit ? Parce que c'est vrai que ça va devenir un exploit après, quand même, pour certains.
Mais on peut utiliser des images, par exemple, avec les enfants, l'escalier de la colère.
Oui.
Tu te souviens, dans la toute première émission, pour ceux qui l'ont raté, peuvent l'écouter en replay, on avait parlé de la carte de fidélité.
Oui.
Pour les enfants, une façon imagée de montrer ça, c'est de parler de l'escalier de la colère. Mm-hmm. Donc, quand il se passe un truc qui commence à m'énerver, je monte une marche. Et puis, un deuxième truc, je monte une deuxième marche et ainsi de suite. Mais au bout d'un moment, je suis montée tellement haut dans l'escalier que je ne peux plus descendre marche après marche. Je suis obligée de sauter et d'exploser et donc de me faire mal.
Et voilà, automatiquement.
Donc voilà, ça, c'est une image qu'on peut utiliser avec les enfants pour leur montrer ça et leur apprendre que du coup, c'est intéressant de mieux ressentir et de se rendre compte à quel moment on commence à encaisser et donc à se mettre en difficulté.
Oui.
Tu vois ce que je veux dire ?
Oui, mais je vois, oui.
Donc Loette, voilà, c'est peut-être plus un apprentissage à travailler avec le grand parce que son petit frère va continuer à l'embêter, parce que d'autres personnes vont continuer à l'embêter et que c'est important pour lui d'apprendre à gérer ça, peut-être en s'isolant du coup pour le coup, pour redescendre, pour pouvoir revenir de façon constructive. Donc là, il y a plein de choses à faire, mais je pense qu'on n'a pas le temps de tout détailler.
Alors, si tu as quelque chose de...
Petite musique ?
Oui, une petite musique, voilà, j'allais te dire, on peut terminer rapidement.
Non, on va mettre une petite musique et après on va répondre aux questions de Isa.
Alors, on a Isa, Claire et Loette.
Loette, ouais, mais Loette, c'est bon, j'ai répondu.
D'accord, c'est bon, trouble du spectre autistique.
Oui, c'est ça,
d'accord.
Trouble du spectre autistique. Et puis, il y a Aurélie aussi qui m'avait envoyé une petite question par messagerie. Donc, on a plein de questions.
Et on répond dans quelques instants à toutes ces questions. Vous êtes toujours dans Entre nous avec Sandrine Donzel sur Bugé Radio. Il est 10h18. On écoute tout de suite Mika et Cédric Attelan.
Votre radio, Bugé Radio.
Mika sur BG Radio, et c'est Karen, vous l'avez bien entendu, c'est Karen. Et tout de suite, c'est Sandrine qu'on va retrouver dans quelques instants.
Taxi du Valromé met à votre disposition dans son groupement d'entreprise 14 véhicules.
De 1 à 9 places avec chauffeur.
De la berline,
monospace,
véhicule pour le transport de personnes à mobilité réduite.
L'entreprise est conventionnée par l'assurance maladie.
Particulier
ou professionnel,
nous transportons aussi vos colis dans les meilleurs délais. Structuré,
expérimenté
et disponible
à votre service 7
jours sur 7. Nouveau, Taxi du Valromé ouvre un point de location de véhicules cargo.
Offre promotionnelle,
votre week-end en Twingo pour 60 euros. Et 300 km compris.
Ou la journée.
Avec 100 km à seulement 26 euros. Taxi du Valromé et location cargo 04 79 87 55 98.
Et 06 23 17 87 60.
Ou sur taxi-du-valromé.com. Le transport pour tous, une solution pour chacun.
Sandrine Donzel sur BG Radio.
Vie de famille, couple, travail, relation aux autres, autant de questions qu'on se pose dans Entre nous.
Tous les derniers lundis du mois, de 9h à 11h, Entre nous, en direct, sur BG Radio.
Posez vos questions via les réseaux sociaux, facebook.com/BG Radio ou par email à contact@bgradio.fr. Et réagissez en direct pendant l'émission au 04 57 29 04 18.
Votre radio, vos émotions.
BG Radio.
Et voilà, on reprend cette émission entre nous avec Sandrine. Rebonjour Sandrine.
Rebonjour. Voilà. Rebonjour à tous, merci d'être là. Il y a plein de questions sur le chat, donc c'est super.
T'as pratique, pu répondre chat. Un petit peu apparemment.
Je vais essayer de répondre un petit peu.
Voilà, de préparer tes réponses, on va dire.
C'est ça. J'ai essayé de réfléchir un peu pendant la musique, mais quand il y a la musique, j'ai envie de danser. Alors après, je...
voilà, automatiquement, on te voit danser. On te voit danser, j'en suis sûr.
Je sais que vous me voyez sur la. Salut tout le monde.
Voilà.
Que vous me voyez sur la caméra. Je voulais répondre aux questions un petit peu de Mariam et de Corinne par rapport au. Mariam posait la question de, à l'adolescence, les relations entre les enfants changent, comment faire pour protéger les petits sans écraser le grand. Et puis Corinne qui disait, c'est l'aîné, 9 ans, qui me reproche de ne pas assez intervenir auprès de son petit frère, 5 ans. Et du coup, il intervient et fait la police lui-même, ce qui évidemment ne passe pas bien du tout auprès du petit.
Alors, priorité au téléphone, c'est est-ce ça. Qu'on décroche ?
Eh bien oui, on va décrocher quand même, puisque quelqu'un téléphone.
Allô, allô ?
Oui, bonjour Olivier.
Bonjour, oui, bonjour. Quel est votre prénom ?
C'est Corinne, Mélusine.
Corinne. Ah, d'accord, ah. Corinne.
Bonjour, voilà. Mélusine.
D'accord.
Bonjour, Sandrine.
Ben voilà, alors je crois que les connaissances...
C'est
les
ça,
connaissances,
je mais... connais Mélusine, voilà. C'est pour ça que je me permets. Alors vas-y, dis-nous tout, quelle est ta question ?
Moi, je voulais vous soumettre une rivalité, enfin une jalousie entre deux sœurs et qui dure depuis plus de 40 ans.
Ah oui, ça peut durer longtemps, on est d'accord.
Ça peut durer longtemps, voilà, ça ne s'adresse pas qu'aux enfants apparemment.
Ça a commencé à quel âge ?
À 4 ans.
Ah, 4 ans, oui, donc 40 ans, d'accord, ok.
À 4 ans, quand ma mère nous a commencé à nous élever seule, avec ma sœur, je me suis effacée pour alléger le quotidien, pour les difficultés, je me suis mis en retrait, alors que ma... Ouais.
Ouais.
Oui.
Oui, oui, on t'écoute. Donc d'accord. Tu t'es mise en retrait.
Ah oui,
en fait,
oui, il faudrait
tout
couper...
Tout à l'heure, Sandrine, tu disais que...
Oui, il faudrait couper si possible, la radio
ah,
derrière.
Ah, faut que je coupe voilà.
Ouais, ça fait un petit écho pas super agréable.
Voilà. D'accord, ouais. Je vais le couper. Voilà, je crois que j'ai coupé.
Voilà,
oui,
bon.
C'est bon. C'est
voilà.
Bon.
Donc, tout à l'heure, Sandrine, tu disais qu'en fait, parfois, un parent allait plus facilement vers un enfant
oui.
qui était plus sage, plus câlin. Dans ma fratrie, c'était l'inverse. Ma sœur était très capricieuse.
Ça dépend
toujours.
Des parents, ouais.
À 48 ans, et elle a une relation très fusionnelle avec ma mère.
Oui, alors c'est vrai que j'ai dit ça que dans la situation que je décrivais, mais ça peut être effectivement l'inverse, c'est-à-dire il y a des enfants avec qui il nous est plus facile d'entrer en relation. C'est normal, voilà, on a des personnalités qui sont plus ou moins compatibles et on a plus de facilité à rentrer. Donc probablement que ta mère, du coup, avait plus de facilité à rentrer en relation avec ta sœur. Je vais faire le parallèle avec la question de Corinne, justement, dans ce que tu dis, enfin une autre Corinne, je pense, parce que c'est son aînée de 9 ans, donc qui reproche de ne pas intervenir assez auprès du petit, qui fait la police lui-même, et elle précise après coup que le grand se plaint d'injustice quand elle demande au petit de faire quelque chose et que le petit a tendance à se dérober, ce qui déplaît beaucoup au grand. Donc je pense qu'il y a effectivement dans cette histoire un peu une question d'étiquette. C'est-à-dire que probablement que toi, quand t'étais petit, tu t'es imaginé que pour satisfaire ta mère et pour pas lui poser trop de problèmes, il fallait que tu prennes sur toi et que tu prennes les choses en charge et que tu ne l'embêtes pas trop.
Oui.
Oui.
Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Ce que ta mère n'a pas forcément perçu comme ça. Et puis, ta sœur, elle, n'a pas fait ça.
Oui, elle a vécu son enfance normalement, caprice, pas caprice.
C'est ça, elle a fait ce qu'elle avait à faire et un peu probablement
enfance, quoi.
Prendre la place que d'une certaine manière tu lui as laissée en fait, tu vois.
C'est la cadette, hein.
Oui, mais voilà, ça aurait pu être dans l'inverse. Ceci dit, ce qu'on constate, sans vouloir faire de stéréotypes, c'est que souvent les aînés sont plus responsables, mais peut-être parce qu'on les responsabilise plus tôt, et que les plus jeunes, voilà. Juste aujourd'hui, la question c'est, est-ce que toi tu souffres de cette situation, et est-ce que ta sœur en souffre?
Ma sœur, je pense pas. Moi, ouais, toujours en fait. Je dis toujours non, mais c'est vrai que... je discute avec ma mère, si ma sœur appelle sur l'autre téléphone, elle va tout de suite couper court, dire « je te rappelle, ta sœur m'appelle ».
Ouais,
ah oui,
donc
ouais, c'est vraiment...
Non, mais pourquoi elle me rappelle pas, elle oublie.
Mais du coup, ouais, effectivement, c'est frustrant pour toi et
on a l'impression
c'est blessant,
d'être invisible.
Quoi. Mais c'est ça, c'est blessant, en fait.
Ouais. Donc, c'est pas... Tout à l'heure, je crois que Corinne a parlé de jalousie, un petit peu. Voilà, c'est pas vraiment... C'est une forme de jalousie, mais plutôt compréhensible, quoi. Quand même, là...
Mais je pense que
la jalouse de la relation qu'elle a avec que ma mère et ma sœur ont ensemble, que je n'ai pas.
À juste titre.
Bah oui, exactement.
À juste titre. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as déjà parlé à ta mère?
Voilà, j'allais dire.
Oui. Alors, je lui ai posé la question.
Qu'est-ce que tu
lui
as
demandé ? Et la réponse a été, mais quand tu étais petite, tu refusais les câlins, tu t'éloignais de moi, ta sœur était très demandeuse, donc je me suis vengée sur elle.
Ah bon ? Oui.
Donc, étonnée, très étonnée.
Mais quelque part, je pense que...
Oui, parce qu'elle se mettait en retrait, Corinne, c'est tout simplement
ça. Oui, mais alors, c'est pas de sa faute. C'était une petite fille, elle gérait la situation comme ça.
Hein, voilà.
Ce que ta maman a perçu comme... tu vois, je pense que ta mère a compris, a cru que tu ne l'aimais pas et que c'était pour ça que tu refusais les câlins. Tu vois ?
Oui, c'est ce qu'elle m'a dit.
Ouais. Et qu'est-ce que tu lui as répondu à ça ?
J'ai dit pas du tout. Que je suis toujours demandeuse, mais ça n'a pas changé les choses.
Ben oui.
Après, maintenant, je suis adulte, donc...
Ouais, mais du coup, comment...
Oui, mais est-ce que ça lui ferait pas plaisir, par exemple, maintenant, un câlin de sa mère?
Mais si, sûrement.
Voilà.
Hein,
si, mais on se fait des câlins quand on se voit. Hein.
Ouais.
Mais c'est vrai que la relation qu'elle a est toujours en rivalité avec celle que j'ai, moi, avec elle.
Oui,
quoi,
ben
avec ma... Voilà, je veux dire, elle s'appelle pratiquement tous les jours avec ma sœur, je le sais.
Est-ce que toi tu l'appelles ta mère?
Pardon?
Est-ce que toi tu l'appelles tous les jours pour lui dire que tu
l'aimes? Non, je l'appelle pas tous les jours. Je l'appelle une fois par semaine.
T'aurais
envie? Je l'appelle qu'au bout de 10 jours. Elle me dit, tu m'as pas appelé.
T'aurais envie toi de l'appeler tous les jours ou pas?
Pas forcément, mais parce que j'ai envie que ça vienne d'elle aussi.
Ouais. Alors tu sais, peut-être que ça ne lui est pas accessible parce que elle ne sait pas trop bien comment s'y prendre avec toi. Alors je ne dirais pas ça à un enfant de 4 ans, mais maintenant peut-être que toi tu peux faire cette démarche là de l'appeler tous les jours juste pour lui dire que tu as du plaisir à discuter avec elle, que tu es contente, tu vois, pour qu'elle se rende compte que vous pouvez être en relation de façon agréable.
Et je pense que Corinne, vous rendrez compte en fait que le jour où vous l'appellerez pas, justement, si vous avez l'habitude de l'appeler tous les jours, après, le jour où vous l'appellerez pas tous les jours, vous loupez un ou deux jours, elle va vous appeler par peur, par crainte, vous voyez. Et donc, du coup, à ce moment-là, vous vous rendrez compte qu'il y a tout de même de l'amour et que cet amour, il est fort. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, non, mais il y en a, j'en suis persuadée. Elle a été opérée, une grave opération début 2014, et je l'appelais tous les jours, là.
Oui.
Prendre des nouvelles, savoir comment ça allait, si le moral était bon. Mais après, ça s'est un petit peu espacé, ça lui a pas manqué.
D'accord, oui, mais ouais, c'est différent, parce que vous aviez déjà l'habitude de faire comme ça avant. Donc là, c'était vraiment...
C'est trop ancré dans les habitudes.
C'est, oui, mais voilà.
Après, moi, je me souviens, alors c'était à l'inverse, c'était une maman qui était venue me voir et elle me disait, avec mon ado, c'est hyper tendu, on n'arrive pas à être en relation et tout ça. Et elle était beaucoup, du coup, sur le conflit en disant, voilà, il faut que je pose les choses et tout. Et je lui avais dit, comment est-ce que vous voudriez que cette relation soit ? Je me dis, bah, j'aimerais qu'on se fasse des câlins, qu'on se parle, qu'on se fasse des trucs et tout. Je lui dis, bah, faites-le alors. Oui, qu'est-ce qui vous empêche de le faire ? Elle me dit rien. Donc, elle, du coup, elle a initié ce changement-là et ça a permis de rééquilibrer. Donc, ça vaut peut-être le coup quand même d'être tenté.
Ouais, j'ai déjà tenté. C'est pour ça que je me dis peut-être que... Après, c'est peut-être dans la personnalité, effectivement.
Bah après, oui, il y a aussi peut-être à se dire, peut-être que ma mère n'est pas en capacité de comprendre ça, ou peut-être que ça va prendre du temps parce que, comme bah, ça fait 40 ans qu'elle ne sait pas trop bien comment rentrer en relation avec toi, qu'elle est un peu... Visiblement, elle en a un petit peu souffert, elle aussi.
Je l'observe quand on est en réunion de famille avec ma sœur pour voir comment ma sœur s'y prend. Mais je vois pas, j'ai pas d'indice, quoi. Ça papote sans arrêt. Si on vient, on les dérange.
Oui, si mais on vient se mêler quand elles sont toutes les deux. Mais ça veut dire, du coup, de créer des occasions où toi, tu es avec elles.
Tu vois, peut-être qu'inconsciemment, j'ai envie que ça s'inverse.
Oui, mais c'est possible, ça, ouais.
Mais pas parce que tout à l'heure, Sandrine, tu parlais de pas mettre la fratrie à égalité, d'essayer de pas, parce qu'on donne à l'un, donner à l'autre. Oui. Moi, je fais ça avec mes enfants. Oui. Je sais pas forcément, ils ont pas forcément besoin de la même chose. C'est aussi ça. Donc voilà. Je sais pas, parce que j'achète à jouer à l'un au magasin, que je vais le donner à l'autre, il aura autre chose à un autre moment. Oui. Voilà. Mais moi, c'est vrai que par rapport à la relation avec ma sœur et ma mère, j'aurais là aujourd'hui vraiment envie que c'est moi qui sois là tous les jours, c'est moi qui discute tout le temps avec ma mère, c'est moi je, et que ma sœur, elle passe vraiment en retrait.
Oui.
Mais ça, je crois que c'est...
Alors, il y a deux choses. C'est, est-ce que tu as envie de ça parce que tu en as vraiment envie et que c'est...
J'aimerais bien voir ce que ça fait.
Oui, alors, c'est pour ça que je te pose la question. C'est, est-ce que tu as envie de ça parce que vraiment tu en as envie, ou bien tu as envie de ça pour te venger de ta sœur?
Ah non, ce ne serait pas une vengeance,
Ok. Donc c'est pour ça
que... Parce que je pense que ma mère, elle ne serait pas capable de faire les deux en même temps.
Oui, je pense que c'est plus un besoin quand même, là. C'est un besoin de reconnaissance, c'est ça.
C'est ce que je pense aussi. Mais du coup, comme on ne peut pas changer les autres, on ne peut que changer la façon dont on est en relation avec eux. Et parfois, ça suscite un changement. Donc, moi, je ne peux que t'inviter, te proposer en tout cas, à aller vers ta mère comme si ça se passait bien.
Voilà.
Mais tu vois, comme toi, spontanément, l'appeler, et simplement pour lui dire que tu as du plaisir à discuter avec elle, que tu voudrais peut-être lui proposer une activité,
voilà, une sortie,
quelque chose, une sortie. Enfin voilà, qu'est-ce qui lui ferait plaisir à elle.
Alors si après elle se met à tout le temps à proposer la sortie, ah bah oui, tiens, on pourra en parler à ta sœur. Enfin voilà, ça peut être ça aussi.
L'inverse ne se produit pas, je peux vous dire.
Oui.
J'apprends des fois que ma mère et ma sœur sont parties pique-niquer, mais m'ont pas appelé pour me demander si je voulais venir.
Oui, mais...
Quand je leur dis, ah mais vous avez pique-niqué et moi... Ah ben, c'est toujours occupé, on ne sait pas, mais elle ne pose pas la question.
Ok.
Donc, vraiment, il y a... Pour moi, c'est une rivalité.
Ouais,
ma sœur, elle est vraiment
même,
une rivale.
Si tu la vois comme une rivale, la difficulté, c'est que du coup, tu vas vouloir, d'une certaine manière, prendre le dessus sur elle.
Oui.
J'ai essayé de me rapprocher d'elle aussi. J'ai essayé cette technique.
Qu'est-ce que
tu en attendais ? Me rapprocher de ma sœur pour me rapprocher de ma mère.
Qu'est-ce que tu en attendais ?
Oui, ma sœur n'était pas du tout dans ce trip-là, donc ça n'a pas pris.
Voilà, c'est pour ça que moi je t'invite plutôt à te rapprocher de ta mère sans t'occuper de ta sœur. Parce que ce qui t'intéresse, c'est ta mère, c'est pas ta sœur. Enfin, si je peux me permettre.
Oui.
Tu vois ? Et du coup, elles t'ont pas invité pour leur pique-nique, mais peut-être que toi. Alors, c'est pas pour faire par comparaison, mais si un jour t'as envie de faire un pique-nique avec ta mère, organise-le.
Oui, voilà, tout simplement, oui.
Qu'est-ce que t'en penses ?
Oui, je pense.
Et si elle invite votre sœur à ce moment-là, vous lui dites non, on avait prévu de le faire ensemble, voilà. Il faut imposer un petit peu ses propres règles à ce moment-là, quoi.
On était un petit peu éloignés géographiquement, mais c'est vrai que
d'accord.
Du coup... Mais souvent, je dis, tiens, dimanche, on va faire là, est-ce que tu veux venir ? Ben non, je fais déjà un truc avec ta sœur. C'est souvent la réponse que j'ai.
Ok.
Donc, c'est sûr. Parce qu'elle est plus proche de votre sœur, c'est ça maintenant ?
Géographiquement.
Ouais. Géographiquement, je parle.
Ouais, en hiver, non. On est à peu près à égalité, mais.
D'accord.
Mais en été, ok.
En été, oui. Ouais.
Mais du coup, voilà, de prendre les devants, de si elle dit, quand elle dit, j'ai déjà un truc avec ta sœur, tu lui réponds quoi ?
Ah bon, bah je peux venir.
Ah oui.
Ouais.
Mais des fois, j'ai pas envie de le dire parce que j'aimerais bien qu'elle me le propose.
Oui, 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 bah oui, c'est normal. Oui.
C'est ça, hein, quand même. On n'aime pas demander. Je sais pas. Enfin, moi, c'est mon caractère. Je préférais que les gens, que ma mère me dise, mais viens.
Oui, ça serait plus chouette.
Dire, non, je vais déjà faire un truc avec ta sœur. Elle a pas le réflexe de me dire, tu pourrais venir. T'es libre. Voilà.
C'est sûr. Ouais. Ça serait plus agréable pour toi si elle le proposait spontanément.
Bah, je pense pour tout le monde dans ce cas-là.
Ce que je peux te proposer, moi aussi, par rapport à ça. C'est de peut-être simplement lui parler de ce que tu ressens, que tu es déçu, que tu avais envie de passer du temps avec elle. Tu vois, quand elle te dit « Ah bah non, j'ai déjà un truc avec ta sœur. Ah bah zut, je suis déçu, j'aurais bien voulu te voir et passer du temps avec toi et qu'on puisse discuter. »
Ouais, je vais essayer.
Tu vois ? Et puis, alors, sachant que ce qui serait intéressant, c'est de voir ce qu'il en découle après. Je ne veux pas non plus te donner de faux espoirs en disant ça va forcément provoquer un changement, mais déjà de voir ce que ça provoque comme changement ou pas. Et après, on peut rediscuter sur qu'est-ce qu'on fait si jamais, ou ça vaut le coup d'y réfléchir aussi. Comment tu gérerais si jamais ça ne provoquait pas le changement que tu attends ? Tu vois ? C'est
d'accord,
une piste de réflexion. Ça. Ok ?
Bon, ouais.
Merci, Corinne.
Merci Sandrine, merci Olivier.
À bientôt.
De rien, merci.
À bientôt.
Et voilà, si vous voulez faire comme Corinne, vous pouvez 04 57 29 04 18. Vous nous laissez votre petit message si vous préférez qu'on vous appelle nous directement sur contact@bugeradio.fr ou par le chat. Mais je pense que le chat, ça va être compliqué de mettre son propre numéro de téléphone. Voilà. Donc essayez l'email.
Oui, ouais, mettez pas le
voilà,
numéro
ou un message
sur
privé.
Le chat. Ouais,
voilà.
Un message privé sur la page Facebook.
Exactement,
aussi,
sur la page de Sandrine. Y a pas de problème.
Exactement. Donc, je reviens quand même un petit peu sur la question de Corinne, hein, parce que cette histoire d'injustice là sur le grand qui se plaint que c'est pas juste parce que le petit se dérobe quand on lui demande quelque chose et tout ça. C'est vrai que c'est pas juste. Mais du coup, il serait intéressant de voir aussi si le grand n'a pas tendance, par exemple, à obéir plus rapidement, alors que peut-être il aurait envie de d'être un peu moins sage. Pour un peu plaire à ses parents d'une certaine manière, et que du coup il vit mal le fait que le petit s'autorise des choses que lui ne s'autorise pas.
C'est clair.
Ça, c'est important. Les étiquettes sont des pièges dans lesquels on met les enfants, mais dans lesquels parfois ils se mettent tout seuls. Et alors, on a tendance à penser aux étiquettes négatives, le pénible, le capricieux et tout ça, et on ne pense pas que l'étiquette entre guillemets positive, l'enfant sage, peut être un problème.
Ben oui.
Mais c'en est un.
Mais c'en est un quand même.
Parce que c'est l'enfermement, c'est-à-dire que l'enfant ne se sent pas autorisé à être autrement et du coup il vit comme injuste que d'autres s'autorisent à.
Il se rend compte de plein de choses.
Exactement. Donc du coup, Corinne, pour la question là sur le fait que le grand trouve ça injuste, voilà, ça vaudrait le coup de voir un peu du côté des étiquettes et de voir comment on pourrait gérer plus globalement la situation. Je pense que j'ai pas suffisamment d'éléments pour répondre à ça.
Oui.
Encore une fois, quand il y a injustice, ça vaut le coup de ramener les enfants à « Ok, ton petit frère, il fait ça, c'est pénible ». Pour le moment, j'essaye de gérer comme je peux. Qu'est-ce qui, toi, te permettrait de vivre les choses de façon satisfaisante ?
Ça peut être...
Bah, oui, parce que peut-être que ce garçon de 9 ans, il a l'impression qu'on lui en demande trop.
Oui, bah oui.
C'est une hypothèse,
aussi.
Je ne sais
c'est
pas.
C'est une hypothèse, voilà, c'est bien.
Ouais,
bien
c'est ça. Je ne sais pas, ce n'est pas une certitude, mais c'est une hypothèse. Donc voilà.
Ok.
Je ne sais pas si ça répond, Corinne. Ça vaut le coup de nous faire un petit coucou pour savoir.
Voilà, sur le chat, hein, c'est ça ?
Oui, sur le chat, ouais. J'avais du coup Mariam qui posait un peu une question similaire sur à l'adolescence, les relations entre enfants changent, comment faire pour protéger les petits sans écraser le grand en attendant que chacun retrouve sa place. Parce qu'en fait, apparemment... Alors non, il n'y avait pas plus de précision que ça. J'aimerais bien avoir plus d'infos pour savoir qu'est-ce que ça veut dire protéger les petits.
Alors, moi par contre, tout à l'heure, tu as parlé des copains ou pas ?
Oui, non, j'ai pas parlé de la question d'Isa. On va y revenir.
On va y revenir après, d'accord.
Ouais,
voilà.
Parce qu'ils ont le même âge, là.
Donc en fait, oui.
Oui, à l'adolescence, c'est vrai que quand les enfants sont petits, ils ont quand même des centres d'intérêt qui sont relativement proches les uns des autres. Et donc, ils arrivent à, globalement à fonctionner ensemble. Après, quand ils deviennent plus grands, les grands ont besoin d'un peu plus d'intimité. Ils ont besoin de se démarquer par rapport aux petits frères, de montrer que eux, ou la petite sœur, de montrer qu'eux, ils deviennent un peu grands. Ils sont parfois violents. Par exemple, ils ont des copains ou des copines. Ils s'enferment dans leur chambre.
Oui, bah oui.
Et le petit ne peut pas s'empêcher d'avoir envie
d'aller voir.
Voir ce qui se passe.
Moi, je me souviens, quand j'étais petit, j'avais mon grand frère. Donc, on a beaucoup de différences d'âge quand même, je vais y arriver. Avec mon frère, on a 16 ans et demi d'écart.
Ouais.
Et avec ma sœur, 10 ans d'écart. Donc,
donc beaucoup d'écart.
Donc, on a beaucoup d'écart.
Ouais.
Et je voyais mon frère, il avait une chambre en bas de la maison. Et donc, j'y allais tout le temps. J'avais mis un parpaing par terre pour pouvoir voir par la fenêtre. Puis, je regardais mon frère avec sa copine, qui est maintenant sa femme, hein, que je connais bien. Et je disais, ah, vous faites l'amour. Voilà, bon, c'était rigolo, mais c'est vrai que c'est gênant aussi pour mon frère. Je le comprends maintenant, c'était super gênant, quoi.
Oui, bah oui.
Mais, je trouve ça drôle quand il me le dit, mais je comprends tout à fait que ce soit vraiment gênant.
Mais évidemment, et tu trouvais déjà ça drôle à l'époque.
Et je trouvais, je me foutais un petit peu d'eux, quoi.
Oui, c'est ça, mais c'était drôle, il y avait cette curiosité naturelle et spontanée qui est bien utile dans la vie.
C'est une sorte d'excitation, voilà.
Il
a une copine,
qu'est-ce qu'ils font?
C'est étrange.
Donc ça, c'est normal, mais du coup, c'est vrai que les grands peuvent vivre ça comme un peu intrusif, et du coup, parfois réagir un peu violemment, en écartant le petit, en fermant la porte, etc.
C'est ça.
C'est assez complexe à gérer, ça vaut le coup cependant d'en discuter avec les deux.
Oui, bah oui.
Peut-être séparément, on peut aussi faire de la résolution de problèmes ensemble.
Oui, bah oui, oui.
Et encore une fois, comme je l'expliquais au début pour régler les conflits, les aider à trouver une solution ensemble, c'est-à-dire c'est pas forcément nous les parents qui devons trouver des solutions à tout.
D'accord.
Mais de les prendre ensemble en disant, bah voilà, il se passe ça, donc toi, par exemple, le petit, t'aimes bien savoir ce qui se passe dans la chambre de ton frère. Je fais des hypothèses, hein, parce que j'ai pas de précision sur la situation, mais t'aimes bien regarder ce qui se passe dans la chambre de ton frère. Toi, le grand, évidemment, ça t'embête, t'as besoin d'avoir du temps un peu tranquille pour toi et tout ça. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ça se passe bien? Et inciter les enfants à proposer eux-mêmes des solutions.
Ouais. Ça, c'est une bonne solution, justement. Ça permet d'établir une sorte de lien plus fraternel dans ce cas-là.
Oui.
Et puis, au moins, ils savent gérer eux-mêmes la situation
c'est
à chaque fois.
Après. Ouais, et ça les entraîne à chercher des solutions ensemble et à comprendre comment on gère un conflit de façon constructive.
Oui, parce que si on arrive à gérer un conflit à cet âge-là, de cette manière, avec une personne, pour tout le reste, c'est plus facile après.
C'est
donc
ça,
c'est vrai
on a
que c'est
appris
une très bonne solution.
D'important.
C'est un apprentissage très important.
Ça ne résout pas tout, mais ça peut aider. Quand même aider, notamment avec des ados, d'avoir cette discussion.
Ouais.
Parce que quand on a ce genre de discussion avec des ados, ils se sentent considérés comme des personnes à part entière, comme presque des adultes à qui on demande de l'aide pour résoudre le problème.
Ben oui.
Ça les valorise et du coup, ils apprécient ça.
Mm-hmm.
Et donc, ils sont d'autant plus impliqués et demandeurs pour résoudre le problème.
Bah oui.
Et appliquer.
Moi, j'ai une petite question en plus de toutes ces questions.
Oui.
Je suis désolé. En fait, c'est simplement pour savoir. En règle générale, on entend tout le temps les gens dire il vaut mieux éviter d'avoir trop d'écart entre chaque enfant.
Ouais.
Est-ce que c'est vrai ou pas vrai, finalement?
Mais je pense
qu'il y a... Toi qui as une plus grande expérience que moi là-dedans.
Moi, je pense qu'il n'y a pas d'écart idéal.
Ouais. Parce qu'on en parlait en début d'émission, tu me disais c'est pratique, les plus grands peuvent s'occuper des petits, mais c'est pour rigoler.
C'était
voilà.
Une boutade, hein,
voilà,
parce
donc,
que c'est pas leur
mais
rôle
réellement,
non plus. Hein.
Réellement, voilà, exactement. Mais réellement, concrètement, comment ça se passe exactement? Parce que moi, je sais comment ça se passe quand il y a un très grand écart, mais vraiment un très grand écart. Donc du coup, s'il y a un petit peu moins d'écart, mais que c'est quand même grand...
Y a pas pour moi, il n'y a pas d'écart idéal.
Moi, j'ai jamais vécu avec mon frère. On va dire que je me souviens pas d'avoir vécu avec mon frère. Donc, voilà.
Il n'y a pas d'écart idéal. C'est-à-dire que il y a des enfants qui s'entendent très bien alors qu'ils ont très peu d'écart. Il y a des enfants qui s'entendent très mal alors qu'ils ont très peu d'écart et vice versa. C'est plus la façon dont on gère la situation, dont on gère les personnalités de chaque enfant, les âges de chaque enfant, qui va faire, et puis la façon dont ils sont en relation les uns avec les autres, qui va faire la différence.
Oui, bah oui.
les deux ont des avantages et des inconvénients.
C'est clair.
Voilà, avoir des enfants avec beaucoup d'écart, ça veut dire que chaque enfant, d'une certaine manière, est un peu enfant unique pendant une période. Parce que si on a un premier, si on a 10 ans d'écart ou 15 ans d'écart, quand le petit va arriver, le premier est quasiment autonome sur plein de choses.
Exactement.
Donc c'est peut-être plus facile sur ce plan-là à gérer pour les parents. Par contre, du coup, il peut vivre ça un peu comme perturbant, parce que on lui met un petit dans les pattes.
Ah
là,
bah oui, c'est compliqué à ce moment-là.
Quand les enfants sont très proches en âge, c'est souvent très fatigant pour les parents au départ.
Bah oui.
Parce que y a deux petits, et que plus les enfants sont petits, plus ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux et qu'on leur consacre beaucoup d'énergie. Mais il peut y avoir aussi des conflits entre deux enfants d'âge rapproché.
Ça, de toute façon, ça peut arriver.
Ça ne change rien. Donc. Je pense pas qu'il y ait un écart idéal ou un
truc... Que ce soit vraiment ça qui cause un blocage irréversible des fois.
C'est ça.
Donc c'est pas ça.
Ouais.
D'accord.
Alors, des blocages irréversibles, je pense que c'est les choses qui s'accumulent dans le temps.
Voilà, oui, c'est ça.
Au départ, à mon avis, il n'y a pas grand-chose d'irréversible.
Non, bah oui. Alors moi, ce qui est rigolo, c'est que pendant pas mal d'années, ça a été plutôt difficile parce qu'on s'engueulait beaucoup. Mais par contre, c'est vrai que maintenant, on s'entend super bien. Bon, il habite très loin de moi aussi, s'il habite dans le sud de la France, donc voilà. Mais on s'entend très bien.
Mais oui, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas baser de conclusion définitive sur la relation que les enfants ont quand ils sont petits.
Oui,
parce que parfois ils ont des phases où ils s'entendent très bien, puis des phases où ils arrêtent pas de se disputer, et puis des phases où ils s'entendent à nouveau très bien.
Ouais,
et
puis
quand ils grandissent, ça change encore.
Enfin, puis ils me disaient tout le temps t'es trop jeune, tu comprends rien. C'est vrai, j'étais trop jeune,
c'est pénible,
comprenais rien. Oui, mais c'était vrai en même temps. C'est vrai que je comprenais pas grand chose. Et maintenant, je comprends tout. Donc, du coup, il me comprend, lui aussi. Allez, voilà, on ferme cette parenthèse personnelle.
Non, mais c'était une question effectivement intéressante parce que c'est une question qui est souvent posée.
Oui.
Alors, je voulais répondre à la question de Isao, qui me parle de ses triplés, qui ont presque 10 ans et qui ont des petites chamailleries régulières pour les histoires de copains d'école. Ouais, c'est mon copain, c'est pas le tien, etc.
Oui,
un conseil pour les aider. Alors, elle précise qu'ils sont dans la même classe, qu'ils n'ont pas forcément les mêmes copains au quotidien, mais que quand l'un veut jouer avec les copains des autres à la récré ou les inviter à son anniversaire, ça crée des tensions. Et elle dit qu'elle a du mal à réagir parce qu'elle comprend plus celui qui veut conserver ses copains rien que pour lui.
Ouais.
Ce que je comprends effectivement parce que c'est toujours difficile de partager, que ce soit les jouets ou les copains.
Mais par contre, elle nous précise que ce sont des triplés, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Donc, ils ont le même âge.
Oui, alors là, ça répond un petit peu à la question que j'ai posée moi, du coup. Faites des enfants avec beaucoup d'écart, finalement. Là, c'est compliqué, quand même. Trois enfants, oui.
Alors, du coup, elle comprend ceux qui veulent conserver ses copains rien que pour eux. Après... Moi, souvent, si c'est juste des petites chamailleries entre eux et tout, c'est mon copain, c'est pas le tien, je suis quand même du genre non interventionniste.
Ouais, bah oui.
C'est-à-dire qu'ils peuvent aussi se rééquilibrer ensemble et que si ça ne dégénère pas et que ça ne devient pas un gros problème...
C'est moins dérangeant.
Voilà, ça peut valoir le coup de... Maintenant, si ça dégénère, là aussi, une résolution de problème, comme je disais tout à l'heure, ça peut aider. On peut les guider là-dedans.
Oui.
Je voudrais revenir d'ailleurs sur la notion de partage qui n'est pas valable qu'entre frères et sœurs, mais qui est valable aussi d'une manière plus générale entre enfants. Souvent, on dit « ils doivent apprendre à partager ».
Oui, c'est souvent ça, c'est vrai.
C'est vrai.
C'est vrai.
Est-ce que toi, Olivier, tu prêtes facilement tes jouets à toi ?
Alors moi, je me prête
ta voiture, par exemple.
Je prête tout ce que j'ai. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Mais alors franchement, tu veux prendre l'iPad là en partant ?
Tu me le prêtes.
Sans problème, je te le prête.
Je l'emmène.
Voilà. Non, mais franchement, ça me dérange pas du tout. Et ça crée souvent des conflits après, parce que vu que je prête beaucoup et je laisse beaucoup de temps quand je prête, ça me dérange pas du tout. Le jour où j'en ai besoin, j'ose même pas le redemander. Et quand je le redemande, souvent, c'est on se fâche.
Voilà.
Et parce qu'ils veulent pas me le rendre.
C'est ça.
Et souvent, c'est comme ça. C'est vrai que ça
donc t'aurais peut-être intérêt à prêter moins.
Exactement.
Mais souvent, quand on n'ose pas prêter, on n'a pas envie de prêter, c'est pour ça que je parlais de voiture, de téléphone, d'ordinateur, c'est parce que ces choses-là sont importantes pour nous et qu'on a peur que l'autre ne nous les rende pas, les abîme.
Oui, je pense qu'il y a un problème de confiance aussi.
C'est ça.
Parce que moi, j'ai trop confiance aux gens.
Oui.
Même les gens que je connais pas. Donc c'est
mais du
terrible.
Coup, la confiance, c'est un problème de peur.
Oui.
C'est-à-dire que avoir confiance, c'est que je sais qu'il y a un risque que l'autre me l'abîme, mais l'autre m'a montré des signes que c'était quelqu'un de soigneux, qui allait faire attention et que du coup.
Ou alors moi je suis inconscient, peut-être c'est ça aussi.
Mais peut-être que tu mesures pas les risques, mais ça, on en reparlera.
Ah, il faudra, pour les risques, ça, il faudra regarder
donc,
ça.
Donc. Donc, ça veut dire que les enfants qui ont du mal à prêter, quand ils ont un jouet dans les mains, leur sens de la propriété est différent d'une autre, surtout les petits. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont un objet dans les mains, il est à eux. Il leur appartient.
C'est à eux, on va dire. Oui, oui.
Bah,
c'est,
à 2, 3, 4 ans, 5 ans,
quand
c'est
ils
ça.
Sont tout petits, oui,
quand
exactement.
Ils sont petits, c'est
exactement.
Ça. Donc, du coup, si quelqu'un veut leur prendre, eh ben, ils n'ont pas envie, parce que c'est à eux.
Bah, oui.
Et surtout, ils prennent du plaisir avec. Donc, ça veut dire qu'on va enlever leur plaisir. Ensuite, donc, ils peuvent, si c'est un jouet qui est vraiment à eux, ils peuvent avoir peur que l'autre
l'abîme
ou ne le rende pas. Donc, si on essaie de les forcer, ils vont vivre ça comme injuste.
C'est clair.
Et de leur faire entendre, si on essaye de leur faire, par exemple, les enfants d'Isa, si on essaye de faire entendre à ceux qui veulent pas prêter leurs copains, qu'ils doivent les prêter parce que quand même c'est important et qu'ils leur appartiennent pas et tout ça, ils vont vivre ça comme injuste.
Ouais, ben oui, oui, mais oui.
Et inversement, l'autre qui a envie de jouer avec les copains, il va aussi vivre ça comme injuste. Et on lui dit, ben non, ton frère ou ta sœur, il faut qu'il garde ses copains à lui, il a bien raison de.
Oui, ben oui. Mais oui, là, c'est quand même compliqué à gérer ça, parce que finalement, même si là, tu vas lui donner une solution, à peu près concrète, on va dire.
Ouais.
Mais non, parce qu'on peut pas faire mieux, parce que c'est très compliqué comme situation à gérer ça. Parce que finalement, ce serait bien quand même qu'ils aient, par exemple, les mêmes amis, c'est possible, ça peut arranger les choses aussi.
Ça peut, mais à des temps différents, quoi.
Voilà, exactement, c'est ce que j'allais te dire. Je pense plus vers l'adolescence, peut-être, que vers là, ça commencera. Justement, ils sortiront entre copains, entre copines, qui sont de la même fratrie
surtout
aussi.
Surtout qu'ils sont dans la même classe, alors.
C'est pour ça, c'est ça qui est compliqué. Ah ouais.
C'est pour ça que moi, dans cette situation, vraiment.
Oui, il n'y a pas vraiment de conseils à donner.
Ça serait intéressant qu'ils simplement ils rééquilibrent ça. Je pense qu'on ne peut pas imaginer que des frères et sœurs vivent ensemble, quel que soit leur âge, sans jamais être en désaccord et sans jamais se disputer
mais
sur
c'est
rien.
C'est clair.
C'est pas possible.
C'est normal. Mais par contre, c'est vrai que sur les amis, il faut voir après au cas par cas, je pense. Parce que là, pour chaque enfant, je parle, on sait pas exactement quel est l'enfant qui se plaint le
plus
de ça.
Est-ce que c'est toujours le même qui se plaint ou c'est chacun son tour, déjà ?
C'est plutôt compliqué, là.
Ça serait représentatif. Mais du coup, voilà, cette histoire de « il y aura des conflits », c'est inévitable.
Oui.
Je pense que ça, c'est intéressant à garder en tête et de se dire que, du coup, peut-être ne pas s'hyper focaliser sur les petits conflits du quotidien qui peuvent très bien gérer tout
oui,
seul.
Voilà, exactement, oui.
Mais c'est vrai que la question de savoir sur les triplés, là, est-ce qu'il y en a un qui se plaint plus souvent de ça que l'autre, que d'autres.
Peut-être un qui est plus détaché que les autres, du coup, du groupe.
Voilà, mais si c'est toujours le même qui se plaint et toujours les autres qui... Après, ce qui m'intéresserait aussi, c'est de savoir s'ils jouent avec les copains les uns des autres simplement par plaisir de jouer parce qu'à un moment donné, voilà, ou s'ils font exprès d'aller jouer avec les copains de l'autre pour l'embêter.
Pour l'embêter. Alors,
parce
là, c'est
que là,
différent.
Ça veut dire qu'il y a autre chose à creuser dans la rivalité, dans la relation frère-sœur.
C'est clair.
Ouais. Ok. Tu sais que le temps passe.
Oui, le temps passe, oui, c'est vrai.
Oui, vas-y, dis-moi.
Mariam qui nous écrit par chat.
Voilà, qui précise sa question, qui dit « Le grand titille pas mal les petites qui ont seulement 1 ou 4 ans de moins que lui en les traitant de bébés, parfois insultes et même tapés. Sachant que les injures peuvent être parfois plus blessantes que les violences physiques. » C'est tout à fait vrai. Donc l'aîné a 14 ans, le cas des 13 et la Benjamine 10. Ce qui m'intéresserait là pour pouvoir répondre, mais je ne sais pas si on va avoir le temps, vu qu'il est déjà moins 5, qu'il faut que je parle de la biblio et que je vous annonce la super émission de la rentrée. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir dans quelles circonstances il fait ça précisément. C'est-à-dire quelles sont les situations qui l'amènent à se moquer du petit. Dans les situations, pour moi, ça s'apparente un peu à des situations de harcèlement. Alors, ce qu'il faut savoir, si jamais il n'y a pas de raison particulière, s'il ne vit pas comme une injustice les relations de ses parents, ça peut être ça aussi. Mais si c'est simplement parfois une situation de harcèlement, c'est-à-dire qu'on peut tous, à un moment donné, c'est une question de contexte, prendre du plaisir à avoir du pouvoir sur les autres.
Oui, ben oui.
À l'école, ça se voit, parfois, ils s'insultent et tout ça, mais parce qu'il y en a un, hop, tiens, il fait un peu le caïd et il peut...
Généralement, pouvoir, ça veut bien dire qu'on aime bien ça.
Ça va souvent
avec.
Il y a certains plaisirs là derrière. Dans ces situations-là, c'est toujours plus efficace, c'est souvent plus efficace de travailler avec les victimes.
Oui.
Parce que celui qui agresse, le harceleur, là, il n'a pas forcément de problème.
Non, oui, ben non.
Parce qu'il a un certain avantage, même s'il se fait gronder, punir et tout ça, même si on lui explique que c'est pas bien.
C'est pas le jeu. Ouais, voilà.
Il s'en fout un peu. J'ai une maman qui m'a parlé de ça. Vendredi soir, j'animais une conférence et elle me dit j'ai ma fille. En fait, les copains d'école, certains copains se moquaient d'elle parce qu'elle avait les oreilles décollées.
D'accord,
c'est pour vous expliquer comment on peut aider une victime à se repositionner. Et cette maman a trouvé spontanément une réponse parfaite, ai-je trouvé en tout cas, c'est qu'elle a dit à sa fille. Ouais, mais ils se moquent de toi parce que t'as les oreilles décollées. Mais tu sais ce que tu peux leur dire ? C'est moi, mes oreilles, ça se recolle. Ouais. Toi, ton cerveau, on peut rien faire. Hein.
Ça, c'est pas mal. Tu vois ? Ça, c'est des bonnes techniques. Et c'est vrai qu'on fait souvent...
Et du coup, elle a dit ça à sa fille. Et sa fille, elle a dit, ils se moquent plus de moi. Mais parce que la fille avait une arme
pour
se défendre.
C'était
elle a pas eu
un moyen de défense énorme. Ben oui.
Parce que dans son attitude, il y a quelque chose qui disait, allez, venez maintenant vous moquer. Vous allez voir, j'ai un truc à répondre. Donc, ça veut dire que peut-être ça vaut le coup que les petits sachent se défendre, apprennent à se défendre et à renvoyer un peu des trucs un peu piquants sans être injurieux ni blessant. Mais voilà, pour dire stop, c'est une limite. Et c'est plus efficace quand c'est la victime qui le fait que quand c'est quelqu'un d'extérieur qui vient moraliser.
Ouais, bah oui.
Donc voilà, c'est peut-être une piste pour Mariam. Je suis désolée de ne pas pouvoir répondre plus que ça.
Oui, on pourra peut-être répondre un peu plus la fois d'après. Parce que de toute façon,
je pourrais
on va répondre aux questions. En début
d'émission la prochaine fois.
Voilà, celles qui reviennent le plus. Allez, on va passer à la biblio, c'est ça ?
C'est ça, je vais passer à la biblio.
Et c'est tout de suite, donc, la biblio. Et donc, la biblio, on commence par quoi ?
Alors, on commence par le premier bouquin, un de ceux que je préfère, que j'ai amené, que vous pouvez voir sur la webcam. Mais comme la webcam est super loin,
je vais le rapprocher. Est-ce que tu veux que je le rapproche ?
Il est sale, parce qu'il est très utilisé. Bah,
ça
ne
se verra pas à la webcam, normalement. Normalement.
La résolution. Donc, c'est « Jalousie et rivalité entre frères et sœurs » de Faber et Maslisch. C'est un bouquin super intéressant parce qu'à l'intérieur, donc il parle des relations dans la fratrie d'une manière générale, et il y a des outils présentés sous forme de bande dessinée, comme ça. Tiens, si tu veux bien le mettre à la webcam.
Je le présente à la webcam, oui.
Donc, ça permet d'avoir des pistes très concrètes pour gérer un certain nombre de situations. Il y a aussi un autre livre qui s'appelle « Relations frères-sœurs » de Catherine Dumontail-Kremer, qui est intéressant aussi. Voilà. Et puis après, il y a des livres plus largement sur l'éducation des enfants, sur la communication avec les enfants qui peuvent rendre service. Donc, les livres de Faber et Maslisch, « Parents épanouis, enfants épanouis » et Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour qu'ils parlent. Il y a le livre de Haïm Ginot « Entre parents et enfants », qui est vraiment super aussi. Les livres d'Isabelle Filioza, J'ai tout essayé et Il me cherche, qui s'adresse à des tranches d'âge différentes. Et elle donne des pistes très concrètes aussi. Et puis elle donne un éclairage parfois un peu scientifique sur le mode de fonctionnement de l'enfant et ce qui fait qu'il fait certaines choses.
C'est bien ça, ça permet de savoir un peu plus.
Exactement, plutôt que de rester dans les traditionnels, il manipule, il me cherche, il cherche les limites.
Voilà, oui, bah oui.
C'est intéressant. Et puis il y en a un autre que je trouve super intéressant qui est Regarde ton enfant est compétent de Jesper Jules.
Oui.
Voilà.
D'accord.
Pour la biblio.
Merci pour la biblio.
Je la mettrai sur la page de la radio, tout de suite, maintenant, dès que l'émission est terminée, puisqu'elle se termine dans une minute.
Oui, voilà. Mais on a le temps quand même de parler à l'heure
de la
grosse nouveauté.
Voilà, de la grande nouveauté. Donc, en juillet, il n'y aura pas d'émission parce que je prends quelques vacances malheureusement pour vous. Enfin, je ne sais pas, ou heureusement, vous avez peut-être marre de m'écouter.
Non, peut-être heureusement parce que peut-être eux aussi ils partent et comme ça, il n'y aura rien.
C'est ça. Par contre, à la rentrée, le 25 août, j'aurai un invité. Qui est quelqu'un que j'adore, que j'aime beaucoup. Et on va parler du rapport au corps et à la nourriture.
D'accord.
Et
mon invité. Ça me concerne aussi alors.
C'est ça. Mon invité, c'est Florian Saffert. Donc peut-être que certains le connaissent, qui est diététicien, qui tient un blog, qui publie des articles dans différentes revues et tout ça, et qui a participé à plusieurs livres. Donc il sera là pendant les deux heures d'émission pour répondre à vos questions sur le thème du rapport au corps et à la nourriture.
D'accord. C'est
super. En septembre, je n'ai pas encore choisi le thème, mais on fera un sondage aussi en août. Probablement. Oui. En octobre, j'ai encore une invitée. On va parler des troubles de l'apprentissage, dyspraxie, dyscalculie, enfin voilà.
Okay.
Et on aura.
Alors, en espérant que l'émission d'octobre se fasse.
Ah!
Parce que normalement, ma femme doit accoucher. Je suis le seul à pouvoir parler avec toi à l'antenne.
Aïe.
Ou alors, je t'apprends à faire la régie et tu te parles toute seule. Ça va
c'est
être
ça.
Compliqué.
Je pense qu'on va faire ça plutôt.
Non, mais je vais essayer de me débrouiller au cas où.
Voilà, tu dis à ta femme de ne pas accoucher ce jour-là.
Non, mais je lui dis de venir elle à la radio, puis moi je vais à l'hôpital, on verra.
C'est ça. Généralement, mais si elle veut, on peut inviter une sage-femme ce jour-là et puis on fait l'accouchement direct à la radio.
Et on passe le bac aussi comme dans les Soudoués, voilà.
Exactement. Bon.
Eh ben merci, merci beaucoup Sandrine. Ça m'a fait plaisir de t'avoir ces trois émissions et puis j'espère vraiment vraiment que ça va continuer et que ça va te plaire.
Moi aussi j'espère que ça va continuer, mais c'est plutôt vous qui nous écoutez.
Apparemment ça a l'air de bien marcher.
Ça a l'air de bien marcher, mais bon voilà, c'est à vous de nous faire toutes vos suggestions, vos remarques, vos commentaires.
Voilà, s'il y a plein de remarques à faire, faut les faire. Exactement. Faut pas hésiter sur le chat ou n'importe où. Il y a plein de moyens
par
pour ça.
Par mail et tout ça.
Ah ben voilà, et puis des petits mails de remerciements, je pense.
Bon été à tous.
Ben merci Sandrine,
au 25 août.
Et puis nous on continue en musique avec Alicia Keys sur Bugey Radio. Il est 11h01, tu vois, on a que 1 minute de retard et 42 secondes, voilà.
45 maintenant.
Mais 45, ouais, c'est ça. Bon, allez, très bonne fin de matinée et puis bon après-midi à ce soir pour l'after qu'on retrouvera d'ailleurs avec Fabien et Vianney sur Bugey Radio à partir de 20h jusqu'à 22h. Bon après-midi et à très vite.